Nous allons bientôt reprendre, si vous voulez bien vous asseoir. Bien, ben nous reprenons nos travaux et je passe la parole sans plus tarder à Jérôme Carsenti qui va vous présenter comment va se mettre en place la table ronde.
Donc là, nous allons avoir un regard croisé des professionnels sur le débat qui nous a été proposé, secret des sources, secret des affaires. La règle qu'on a un peu instaurée, c'est de se présenter en quelques mots pour dire d'où l'on parle, parce que c'est toujours important sur un sujet qui est un sujet, et j'y reviendrai, éminemment politique et sensible, de savoir qui parle, et finalement au nom d'une certaine idée quand même de ce sujet. Donc je suis certes membre de la commission Liberté et de la commission Égalité du CNB, mais je suis élu du syndicat des avocats de France. Je suis membre du syndicat des avocats de France et pas du tout élu. Et par ailleurs, membre et avocat de l'association Anticor, ce qui vous donne aussi une idée des combats que je peux porter. Le sujet qui est secret des sources, secret des affaires, pourrait finalement être résumé en disant ne s'agit-il pas d'un combat entre l'intérêt général et des intérêts privés ou des intérêts catégoriels. En réalité, ce sujet est un sujet qui pose la question démocratique, j'allais dire, au plus profond de l'essence et de l'évolution sociétale. Question première, la liberté de la presse, dont le secret des sources est le socle, le fondement, puisque sans secret des sources, pas de liberté de la presse, c'est ce qui fonde même la presse. Ce secret, et Jean-Jacques l'a rappelé, d'autres aussi, a tendance à s'éroder. Vous savez qu'il est fondé sur une loi de 2010, qui est la loi Dati, qui est une loi qui a été essentielle parce qu'elle a affirmé le secret des sources, mais qu'en même temps, cette loi est imparfaite et que la loi qui était censée la peaufiner, qui était la loi Bloch, du nom du député qui la portait, a été censurée par le Conseil constitutionnel. D'un autre côté, on a un nouveau secret, qui est le secret des affaires, secret récent, puisqu'il a été voté par une loi française en juillet 2018, à la suite d'une directive européenne, donc c'est une loi de transposition, et qui, effectivement, pose le principe du secret des affaires comme un principe nouveau qui s'étend, et qui tente, en tout cas, c'est... la conception que j'en ai à la lecture des textes, qui tente en réalité à prendre toute la place. La place au détriment d'autres libertés publiques. Et on peut d'ailleurs s'interroger, et M. Mercier d'ailleurs l'a abondamment et brillamment exposé, sur ce paradoxe évident qu'il y a entre cette société qui, de plus en plus, revendique l'idée de la transparence, ce besoin de transparence, ce besoin en réalité pour le citoyen, pour la société civile, de savoir, de comprendre, de voir quels sont les risques liés aux problématiques environnementales, aux problématiques de santé publique, aux problématiques d'équilibre alimentaire, de sécurité alimentaire. Et de l'autre côté, effectivement, ce secret qui devient un secret nouveau. Alors, je me suis, peut-être pour poursuivre votre réflexion, monsieur Mercier, un peu interrogé. Pourquoi les lois de transparence politique, qui aujourd'hui sont légion, et on voit bien comment de plus en plus l'exigence citoyenne vient à demander la transparence pour les élus, le besoin d'éthique politique, comment aujourd'hui il y a des déclarations d'intérêt, comment aujourd'hui monsieur De Rugy peut être épinglé pour des repas qui hier étaient légion. Comment se fait-il qu'en réalité, ce besoin citoyen de transparence politique s'accommode si bien d'une opacité de plus en plus forte du monde des affaires? Et ce paradoxe, peut-être est-ce en tout cas un début de conclusion ou de question polémique, c'est peut-être que le lieu de pouvoir a changé. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui était le lieu de pouvoir, le lieu de pouvoir politique, qui était le lieu de l'opacité pendant bien longtemps, en tout cas le lieu du secret, du sécurité-défense, de l'intérêt politique, de l'intérêt de la sécurité de l'État. Celui-là tend à disparaître, à s'effilocher, à disparaître, et en réalité, on voit que le secret des affaires tend à prendre toute la place. Est-ce à dire qu'en réalité, le lieu du secret est le lieu de pouvoir, et qu'aujourd'hui, le pouvoir est bien celui du lieu des affaires? Alors, avec nombre d'associations, d'ONG, le SNJ présent, le SAF, le SM, au moment de la transposition de la directive secret des affaires, nous avions alerté les parlementaires, nous avions été reçus par les parlementaires, nous avions indiqué aux parlementaires le risque que faisait courir cette loi de transposition sur le secret des affaires telle qu'elle était rédigée. Et là, je rejoins parfaitement ce qui a déjà été exposé. Il ne s'agit pas de dire que le secret des affaires est une bévue et qu'il n'a pas lieu d'être, mais comment, en réalité, s'agissant d'une atteinte aux libertés publiques possibles, il doit être, au terme de la loi, de plus en plus sécurisé. Or, la loi permettait de comprendre qu'il y avait un certain nombre, à notre sens, de risques. Risques pour la liberté de la presse, pour les lanceurs d'alerte, pour les salariés, pour l'intérêt général. Cela n'a pas été entendu du tout par les parlementaires, et la loi est une copie quasi exacte de la directive européenne. Alors, on avait pu penser, et on nous avait dit à l'époque, mais vous êtes finalement des oiseaux de mauvais augure. Vous n'avez pas compris que la loi dispose d'exceptions et que ces exceptions protégeront la liberté de la presse, les lanceurs d'alerte et les salariés des institutions représentatives de personnel. Qu'en est-il? Je cite ce fait divers pour introduire nos débats. Fait divers qui est aujourd'hui, à mon sens, une procédure qui est une procédure essentielle pour l'avenir de ces questions que nous allons poser. Il y a environ 2 ans, une journaliste néerlandaise qui s'alertait ou s'inquiétait plus exactement de la manière dont les implants étaient certifiés au niveau européen, a utilisé un subterfuge qui est absolument en soi drôle, mais qui est en réalité dramatique. Elle a pris un filet de mandarine et avec un certain nombre de travestissements, a réussi à faire certifier ce filet de mandarine comme étant un implant vaginal. Ceci a bien sûr suscité un certain nombre de réflexions, de commentaires, mais surtout un groupement de journalistes d'investigation européens internationaux ont commencé à réfléchir et à faire nombre d'articles sur ces questions, notamment pour Le Monde, Stéphane Aurel, qui a été cité par M. Mercier dans cet excellent livre, ouvrage Lobitomie, que je vous conseille bien évidemment de lire, et qui travaille sur ces questions de santé publique. En France, il y a une société qui s'appelle la société LNE, qui était une société laboratoire, qui était une société d'économie mixte, et qui est la seule société habilitée à certifier les implants. Cette journaliste, dans le cadre de son enquête, et s'étonnant effectivement de la manière dont les implants étaient certifiés au niveau européen, a demandé à la société LNE de bien vouloir lui en dresser la liste des implants certifiés et non certifiés, tout simplement pour comparer dans quel cas il y avait des certifications et quand il n'y avait pas de certification. La société n'a pas répondu. Et finalement, ce silence a conduit la journaliste et Le Monde à interroger la CADA pour, au titre de la communication des documents publics, demander à ce qu'il soit enjoint à la société LNE de communiquer les 10 documents. La CADA a répondu ce que n'avait pas osé faire la société LNE. La CADA a répondu, elle a eu raison, la société LNE, ce que vous demandez est couvert par le secret des affaires. Et c'est dans ces conditions qu'effectivement, Le Monde, le SNJ, ont introduit un recours devant le tribunal administratif et qu'aujourd'hui, aux côtés d'une quarantaine d'associations, dont le SAF, je me suis constitué en intervention volontaire pour porter ce combat de l'intérêt général contre une réponse qui est une réponse très inquiétante. Puisque la réponse ne vient pas d'une société même d'économie mixte, la réponse vient d'une institution comme la CADA qui jusqu'alors répondez ou rendez un rôle qui était celui du contre-pouvoir public à l'opacité de l'administration et qui finalement a refusé au nom d'une disposition qui est pour le coup catégorielle. Et donc ça inquiète sur la porosité, mais peut-être pourrons-nous en parler quelques instants tout à l'heure, la porosité de nos institutions avec le climat qui est le climat politique dominant et qui s'impose aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant introduire ce débat. Je vous propose en réalité une séquence en trois temps. Un premier temps où chacun des intervenants va se présenter et dire d'où il parle et quelle est, selon lui, son approche rapide de la problématique qui est posée. Et puis, dans un deuxième temps, nous ouvrirons réellement le débat, puisqu'on a des points de vue ici, autour de cette table, contraires, en tout cas une approche complexe de cette réalité qui va nous permettre d'opposer nos points de vue. Peut-être que nous allons les uns et les autres, à l'issue de cette table ronde, se rapprocher les uns les autres et mesurer que nous avions peut-être des visions caricaturales. Alors, je vais d'abord donner la parole à Maître Antoine Comte, donc avocat au barreau de Paris, qui représente ici le SAF et qui est un avocat connu, notamment aux côtés des journalistes et du droit de la presse.
Je peux appuyer là-dessus, c'est ça. Alors, il faut que je me présente. Donc, la présentation a déjà été faite, d'ailleurs, puisque on dit que je suis un avocat qui s'occupe d'affaires de presse, et en effet, c'est le cas. C'est à cause de cela que je voudrais me livrer un peu à une prospective. Alors, c'est délicat parce que la loi sur le secret des affaires date de juillet 2018 et que nous n'avons pas, comme ça a été relevé par un intervenant ou des intervenants dans la salle, encore beaucoup de jurisprudence. Donc moi, je me livrerai à une comparaison sur un certain nombre de points entre les deux pôles qui sont l'objet du débat ici, c'est-à-dire d'un côté la loi de 2010 sur le secret des sources des journalistes, je rappelle que c'est la formule, hein, secret des sources des journalistes, ce qui peut être critiqué, on verra pourquoi, et d'autre part le secret des affaires. Et la question qui traversera en tout cas ce que je veux vous proposer comme réflexion et qui ne sera peut-être pas partagée par les uns et les autres, c'est comment la loi sur le secret des affaires peut poser problème sur le secret des sources, sur la capacité de faire des enquêtes pour que la liberté de la presse puisse s'exercer et aboutir à communiquer aux citoyens des informations comme l'exige l'article 10 de la Convention européenne dans son premier alinéa. On peut communiquer des informations, même si elles déplaisent, même si elles sont gênantes. Et alors, comme je suis un peu dans mon droit de la presse, je voudrais d'abord vous faire remarquer quelque chose, parce que ça me semble important de bien situer les choses un peu historiquement. Depuis de nombreuses années, devant les juridictions de la diffamation, on ne peut pas critiquer les produits et les services. Ça n'est pas diffamatoire. C'est-à-dire qu'on a exclu tout un pan, au niveau du juge de la diffamation, tout un pan des critiques possibles à l'égard des produits et des services d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. Et cela explique peut-être aussi la manière dont est rédigée la loi sur le secret des affaires. Alors, prenons d'abord la loi du 4 janvier 2010. Ce que je voudrais faire passer ici, parce que, mais vous le savez certainement, mais c'est les formules répétées qui sont parfois inadéquates, on dit le secret des sources des journalistes. Oui, c'est le secret des sources des journalistes qui est protégé, mais ça n'est pas une protection formelle, ça n'est pas un privilège. Et la Cour européenne vous rappelle pourquoi il y a un secret des sources des journalistes. Parce que c'est un moyen. C'est un moyen pour que les enquêtes se fassent. C'est un moyen pour que les personnes qui ont des informations les donnent sans risquer d'être exposées ensuite à des poursuites parce que ces personnes seraient nommées par le journaliste éventuellement, même si ça n'est pas sa déontologie, ça peut arriver. Et donc c'est un moyen de l'enquête, c'est un moyen de la recherche, c'est un moyen de l'exercice de la liberté de la presse. Et ça, c'est très important de comprendre ça, parce que la question des moyens, c'est celle de savoir si la loi sur le secret des affaires va gêner ces moyens. Alors, rappelons que, après maintes débats, et ça a été, je crois, déjà rappelé ici, des restrictions ont été apportées au secret des sources des journalistes. Ce sont des restrictions importantes pour lesquelles on n'a pas encore une jurisprudence très, très affermie, mais qui sont importantes parce que dans la période que nous avons vécue, et dans la période que nous vivons encore certainement, elles peuvent poser problème. Donc, la loi sur le secret des sources a prévu que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie, et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnelles au but légitime poursuivi, eh bien, il y a là un obstacle au secret des sources, tout en disant que les journalistes ne doivent pas et ne sont pas et ne sont jamais tenus de révéler le nom de leurs sources. Voilà, voilà la loi comme elle se présente en 2010. Elle a donné lieu à une jurisprudence dont vous avez entendu parler, bien évidemment, qui concerne L'Oréal et qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation. Encore L'Oréal, je veux dire Bettencourt, hein, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation qui... c'est l'arrêt Bettencourt, stricto sensu. Et donc, on a là une question sur le secret des sources. Est-ce qu'on doit donner des informations? Est-ce qu'on doit aller au-delà, etc. Bon. Comment est-ce que la loi sur le secret des affaires peut poser problème? Alors, je dis bien qu'on est dans la prospective, hein, et peut-être un peu une prospective pessimiste. Mais je partage le point de vue à ce stade, du SNJ qui a été exposé en cours de débat tout à l'heure en disant que la loi pose un problème pour tout le monde. Les parlementaires, dans cette loi de 2018, se sont attachés à protéger la liberté de la presse en apparence. Je dis bien en apparence. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez les articles 151-7, 8, 9, etc., qui ont été intégrés au code du commerce, de quoi parle-t-on ? On dit à l'occasion d'une instance. À l'occasion d'une instance. On reprend à l'article suivant, à l'occasion d'une instance. Et c'est toujours à l'occasion d'une instance que le secret des affaires n'est pas opposable au journaliste ou à la personne qui éventuellement est habilitée de par ses fonctions représentatives à accéder à un certain nombre d'informations. À l'occasion d'une instance. Et c'est là où je pense personnellement que la loi sur le secret des affaires apporte une restriction supplémentaire à la loi de 2010 sur le secret des sources, en se souvenant toujours qu'il y a un moyen dans le secret des sources. Le moyen, c'est de faire des enquêtes complètes. Et c'est pour ça que le secret des sources est protégé, pour qu'on puisse faire des enquêtes complètes en tant que journaliste, dans la mesure où ça intéresse le public, c'est justifié, et vous connaissez les critères de la Cour européenne là-dessus, enquête fiable, sérieuse, etc., base factuelle suffisante et sujet d'intérêt général. Mais les exceptions à la protection du secret des affaires, section 4 de la loi de 2018, c'est à l'occasion d'une instance. Et moi, je vous dis que à ce stade-là, et j'ai un tout petit exemple dont on a déjà parlé d'ailleurs dans ce débat, à ce stade-là, on n'a aucune garantie qu'en amont d'une instance éventuelle, il n'y ait pas un obstacle opposé par le secret des affaires à des recherches, à des investigations et à des enquêtes. Et ça, ça répond à une des questions qui a été posée au cours des débats par une consoeur. Et vous avez là la décision de la CADA dont on a parlé. Parce que la décision de la CADA, elle est pas, il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'instance en cours. On n'est pas dans une configuration prévue par la loi de 2018 qui indiquerait le secret des affaires n'est pas opposable. On est dans la phase en amont. On est donc dans la période où on fait une enquête. On est dans la période où on fait des investigations. Et là, on se prend le secret des affaires, si je puis me permettre, dans les dents. Voilà, on va dire ça comme ça pour simplifier. Donc, c'est inquiétant. Voilà. Mais c'est de la prospective. Hein. Moi, j'attends la jurisprudence. Et je suis de ceux qui sont partisans. J'ai entendu des critiques sur le Conseil constitutionnel. Je suis de ceux qui sont partisans qu'on ne liste pas les périmètres des protections, de celles qui ne sont pas protégées, etc., etc., parce qu'on oublie toujours quelque chose. Et puis, il y a une nouvelle loi qui intervient. Elle n'est pas dedans. Et donc, je suis pour que des principes soient proclamés de manière simple, carrée, et que les juges, après, avec tous les recours possibles et imaginables qui nous sont accordés par la Cour européenne, les juges définissent un peu ce qu'il faut entendre. Alors, je résume mon propos. Je fais de la prospective, certes, mais ce que je dis, c'est que la loi sur le secret des affaires, en l'état et hors instance, présente un obstacle à la liberté de la presse, contrairement à ce que voulaient les parlementaires. C'est important de le souligner, et c'est important de le dire, et c'est important qu'à ce stade-là, nous en soyons conscients. On verra après les décisions de la justice. Je vous en remercie.
Merci Antoine Comte. Je donne la parole maintenant à Monsieur Charmoyau qui va nous exposer du côté du syndicat de la magistrature quelle est la position.
Ouais. Alors, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Vincent Charmoyau, je suis secrétaire général du syndicat de la magistrature et dans le civil, je suis vice-procureur à Lille. J'ai notamment été chef de la section financière. En dernier lieu, j'étais... J'étais en poste à la GIRS aussi sur du droit pénal, économique et financier. Alors pour moi, il n'y a pas forcément de conflit de principe entre la notion de secret des sources et la notion de secret des affaires au sens juridique du terme. Parce que le secret des affaires sanctionne la divulgation de certaines informations, mais n'impose pas, a priori, de révéler la source de l'information. Donc il n'y a pas de contradiction directe entre les deux. Et il y a une hiérarchie très claire entre les deux principes. Vous avez d'un côté le secret des affaires, qui est en France d'apparition assez récente, et qui est pris sur la base d'une directive européenne de 2015, qui elle-même prévoit dans son texte plein de limites et de dérogations. C'est très loin d'être un principe... absolu. Il est censé céder au terme du texte devant la liberté d'expression, la révélation d'une activité illégale et puis, comme on le disait, la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. À l'inverse, de l'autre côté, le secret des sources bénéficie d'un haut niveau de protection, au moins au niveau de la CEDH. C'est un peu plus imparfait en droit interne, mais au niveau de la CEDH, vous avez Staré Godwin de 96 qui dit le secret des sources, c'est une pierre angulaire de la liberté de la presse. Donc il y a vraiment une hiérarchie très claire entre les deux. Et puis, du point de vue du magistrat pénaliste que je suis, la hiérarchie elle est tout aussi claire. Autant le secret des sources, c'est une limite effective à l'action des autorités judiciaires dans un certain nombre de cas. Comme le dit la CEDH, c'est quelque chose qu'on peut transgresser en tant qu'autorité judiciaire uniquement en cas d'impératif prépondérant d'intérêt public. A l'inverse, le secret des affaires, il n'est absolument pas opposable à l'autorité publique et à la justice judiciaire pénale. Je dirais que le juge d'instruction ou le magistrat du parquet à qui on opposerait le secret des affaires pour essayer d'échapper à une perquisition, il va s'arrêter deux minutes pour rigoler, il va reprendre son souffle et il va reprendre le travail. Hein. C'est pas, donc il y a une hiérarchie très claire entre les deux. Et puis, il n'entre pas de toute façon directement en contradiction. Alors, est-ce que je suis à deux doigts de dire qu'on est là pour rien ? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que les deux principes, pour moi, sont travaillés par des tensions qui sont assez similaires et qui vont toutes les deux dans le même sens, qui est celui d'une limitation de la liberté de la presse et de la liberté d'expression et de manières qui sont assez, assez similaires. C'est pas une question de dire pour ou contre le secret des affaires. Un, parce qu'il existe, et surtout, parce qu'au-delà d'exister, il n'est pas illégitime en lui-même. Il y a en effet un intérêt public à ce que des entreprises, petites ou grosses, ne se fassent pas dépouiller d'un certain nombre de savoir-faire ou d'innovations qui constituent en effet des actifs dont elles n'ont pas à se faire dépouiller. La question, c'est surtout, à mon sens, que le secret des affaires, il doit rester à sa place. Il doit rester à la place qui lui est donnée par les textes, qui est celui d'un principe de valeur secondaire. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, cette hiérarchie. Elle est prévue, y compris par la directive de 2015. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'officiellement, au moins, le secret des affaires, il est là pour lutter contre l'espionnage industriel, contre l'appropriation frauduleuse de savoir-faire et d'innovation. Il n'est pas là pour protéger des acteurs privés de toute mise en cause pour un certain nombre de turpitudes qu'ils pourraient avoir. Il n'est pas là pour ça. Et malheureusement, quand on regarde le texte et lorsqu'on réfléchit deux minutes à comment il peut s'appliquer, et lorsqu'on regarde les quelques applications qu'on sent venir, on a l'impression que, je dirais que les lanceurs d'alerte et la presse est au moins autant dans le collimateur que les vilains contrefacteurs chinois et l'espionnage industriel. Au moins autant dans le collimateur. Quand on parle de diffusion d'un secret des affaires, moi je me dis que si je suis un vilain espion économique, je vais peut-être aller... Mon but, c'est de m'approprier un savoir-faire, je ne vais peut-être pas aller le diffuser dans la presse derrière au bénéfice de tout le monde. Donc il y a quand même, à la conception même de cette notion de secret des affaires, on a délibérément laissé la porte ouverte d'aller chercher la presse sur les violations de secret des affaires. Et quand on laisse cette porte ouverte... on ouvre la porte à autre chose que la lutte contre l'appropriation frauduleuse d'innovation et on laisse cette possibilité d'aller s'attaquer à la liberté de la presse. Et c'est là où on a un problème, c'est que globalement, si je réfléchis en tant que juriste, mais vraiment avec le tout petit bout de la lorgnette, le régime juridique il paraît équilibré à première vue, parce qu'il y a tout un nombre d'exceptions et de sécurité qui sont prévues dans le texte, qui laissent penser qu'il n'y aura pas trop de risques de voir des lanceurs d'alerte, des gens qui agissent d'une manière légitime, être in fine condamnés une fois qu'ils auront mis toute l'énergie qu'ils ont pendant des années, tous les moyens qu'ils ont pendant des années pour épuiser toutes les voies de recours pour faire reconnaître leur bonne foi. Il est peut-être un peu risqué de se dire « j'attends la jurisprudence », parce que je pense que le risque que pose ce texte, il est au-delà de cette question de jurisprudence. Je suis assez convaincu qu'il ne donnera pas lieu à condamnation de lanceurs d'alerte qui auront épuisé toutes les voies de recours, parce qu'en effet, les garanties, elles sont dans le texte. De même que je suis raisonnablement confiant dans l'impossibilité de mener valablement à son terme une procédure judiciaire qui reposerait sur une atteinte à la protection des sources et journalistes. Le problème, il est ailleurs. Il n'est pas dans le dommage causé aux libertés par le résultat de la procédure, mais dans le dommage causé par la procédure elle-même. Et c'est une tendance contemporaine qui est forte, qu'on a retrouvée aussi à l'occasion de l'usage assez large des gardes à vue dans les manifestations de Gilets jaunes, où des gens étaient placés en garde à vue pendant jusqu'à 48 heures sur la base d'éléments extrêmement faibles et extrêmement peu exploitables judiciairement parlant. Et puis derrière, ils étaient libérés en disant « désolé, en fait, c'est pas constitué, classement sans suite ». Alors, en tant que juriste, on peut être un petit peu désorienté par ça. Parce que le premier réflexe, c'est de dire « on vous a reproché une atteinte au secret des affaires, et puis à la fin, vous n'avez pas été condamné ». On a cherché à porter atteinte à vos sources avec une perquisition, mais derrière, la procédure a été annulée, il n'y a pas de problème. Ou bien, c'est pas grave, vous avez été placé en garde à vue 48 heures, mais vous êtes sorti, vous n'êtes pas poursuivi. C'est pas grave, il n'y a pas de problème, finalement. Et ça, en tant que juriste, on a eu assez longtemps du mal à l'assimiler pour ce que c'est, mais c'est le royaume du fait accompli, en fait. Oui, vous avez été condamné, vous n'avez pas été condamné, donc vous avez gagné. Non, j'ai rien gagné. Je me suis retrouvé significativement entravé sur la base d'une procédure qui était vouée à l'échec. Je me suis abstenu d'exercer une liberté pour éviter de me retrouver dans cette situation. Je n'ai pas sorti cet article parce que je ne voulais pas prendre le risque d'avoir une perquisition chez moi pour rechercher mes sources, quand bien même a toutes les chances d'être annulé derrière. Je me suis abstenu de publier cet article pour ne pas avoir à supporter un contentieux très coûteux pendant des années sur la base du secret des affaires, quand bien même je sais que j'aurais eu raison à la fin, 10 ans après, devant la CEDH. Et le problème de cette tendance-là, c'est que ça crée des atteintes aux libertés, à l'exercice des droits qui sont situées un peu en dessous de là où on place spontanément notre radar de juriste. Et pour moi, c'est la plus grosse insuffisance à la fois de la protection des sources et de la loi sur le secret des affaires. C'est que il n'y a pas de garantie suffisante pour éviter cet usage par un certain nombre d'acteurs de procédures qu'ils savent vouées à l'échec, mais pour lesquelles l'objectif n'est pas de gagner à la fin. L'objectif, c'est de dissuader ou de casser les pattes d'acteurs qui sont des adversaires dans le cadre d'un débat qui peut être légitime. Et il est indispensable, à mon sens, d'avancer sur cette réflexion-là dans le domaine de la protection du secret des sources, sur lesquelles il est nécessaire, selon moi, de prévoir à l'article 2 de la loi de 1881 une protection un peu plus effective contre notamment les poursuites pour recel, quand bien même elles seraient vouées à l'échec. C'est ce qui a été tenté par la loi Bloch, mais d'une manière peut-être un peu trop général et absolu, et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et puis, au niveau du syndicat de la magistrature, on a militer dans le débat sur la loi secret des affaires pour qu'au moins soient institués des garde-fous ou des sanctions pour éviter un usage abusif de procédures vouées à l'échec dans un but de procédure bâillon. On n'a pas été suivi sur ce point-là, mais je pense que autant pour le secret des affaires que pour le secret des sources, que même pour les libertés publiques d'une manière générale, il est absolument nécessaire de se préoccuper de ce type de dérive-là et puis d'essayer d'y mettre des garde-fous suffisamment satisfaisants. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir raison à la fin. Ce n'est pas suffisant.
Merci Vincent Charmoyau. Je donne la parole à Dominique Pradalier du SNJ qui va donner son point de vue.
Bonjour à tout le monde. Je suis journaliste et j'ai fait toute ma carrière dans l'audiovisuel de service public et parallèlement, je milite au Syndicat national des journalistes où je suis secrétaire général. Voilà. Je dois dire que cette loi nous a pris de plein fouet. C'est l'histoire d'une obsession aux yeux de beaucoup, puisque la première fois qu'il a été question de secret des affaires, c'était dans un amendement glissé par un certain ministère de Bercy où était Emmanuel Macron en 2015, et qui, devant le tollé qu'a soulevé cet amendement, avait retiré l'amendement. Donc nous, on a suivi les lobbyistes qui étaient à Paris ont pris le train pour Bruxelles, nous aussi. Et donc on les a vus à l'œuvre. Et ils ont obtenu la directive et on a eu beau se battre comme des chiens, on a obtenu quelques petites miettes de possibilités sur cette directive Et puis ils ont pris le train dans l'autre sens, nous aussi. Et ils se sont trouvés devant un candidat qui s'appelait Emmanuel Macron, qui finalement a été élu. Et voilà que, comme par hasard, on se retrouve devant une obligation de défendre un droit sacré qui est la liberté d'informer et d'être informé. Hein, ces deux libertés ne sont pas du tout divisibles à nos yeux, devant une loi qui est une loi de circonstance et qui est faite pour protéger les grands lobbies mis en difficulté, effectivement, du fait d'enquêtes. Arnaud Mercier l'a très bien expliqué, des journalistes sur les pratiques plus que douteuses des grandes entreprises du CAC 40 et autres entreprises internationales. Donc on s'est battu comme des chiens, Maître Garcintier l'a dit. On a en moins de 2 semaines obtenu sur une pétition 600 000 signatures, ce qui est quand même pas rien en France. On a été obligé de bloquer le pont de la Concorde. Enfin, on a fait des choses, on est plus de 50 organisations, rien n'y a fait. La loi, non seulement la transposition devait être faite avec une loi qui aggrave la circulaire de Bruxelles, mais ça devait être fait en grande urgence, procédure d'urgence, c'est-à-dire une seule lecture à l'Assemblée, une seule lecture au Sénat, c'est-à-dire pas le temps de discuter pour les parlementaires, pas le temps d'apprécier à quel type de liberté touchait gravement cette loi. Voilà, elle a été promulguée, on est allé aussi au Conseil constitutionnel, enfin bref, je ne vais pas vous faire tout le parcours. Pour vous dire simplement qu'il suffit de se rendre compte de 2 choses. Premièrement, le secret, qui était un secret industriel et commercial, qui disait bien son objectif, s'est trouvé transformé en secret des affaires. Vous voyez la différence, quand même, elle est énorme. Certains ont dit que c'est une loi mafieuse, même, c'est pour vous dire, parce que toutes les affaires sont protégées, quelles qu'elles soient. C'est une loi de protection générale. Elle est inclue dans le code du commerce, donc va relever des tribunaux du même nom, et non pas de la 17e chambre, par exemple, à Paris, qui a une très grosse jurisprudence sur les dysfonctionnements de la presse, les délits commis ou pas par les médias, etc., etc., qui a un siècle et demi de jurisprudence. Ce n'est pas le cas des tribunaux de commerce. Les tribunaux de commerce sont des juges consulaires qui sont désignés par les chambres, des différentes chambres en France, etc., donc, et qui a pour objectif, et c'est normal, de protéger le commerce. C'est normal. Je veux dire, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Sauf que nous n'avons pas, les journalistes refusent de passer devant les tribunaux du commerce. Voilà, point. Deuxième point, il est évident que ne pouvant pas attaquer frontalement la loi de 1881, ce n'est pas l'envie qui leur manquait, on a trouvé ce moyen pour transformer complètement dans l'esprit d'un certain nombre de gens les principes que nous avions. C'est-à-dire que la loi de 1881 dit que la publication est libre et on doit reconnaître s'il y a eu dysfonctionnement, etc., et punir. Là, c'est exactement l'inverse. C'est que vous n'avez le droit de rien faire, sauf ce qui est permis. Vous n'avez le droit de rien faire, sauf ce qui est permis. Et la loi de 81 permet les attaques contre la publication, ce qui est tout à fait normal. Et on a à répondre, comme tout le monde, du mauvais travail si on en fait, et c'est tout à fait normal. Cette loi-là punit la détention. C'est-à-dire que si vous êtes un journaliste normal, bien, digne de ce nom, disons, qui travaille bien, vous avez une information disant, je ne sais pas, moi, le fabricant d'escaliers, par exemple, travaille ses marches avec de l'uranium enrichi, enfin, je vous dis n'importe quoi. Vous allez évidemment voir le fabricant d'escaliers en lui disant, est-ce que c'est vrai? Vous allez évidemment faire votre enquête. Et le fabricant d'escaliers, dès le moment, peut vous dire, on va en justice, je vous attaque. Dès ce moment, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas. Et l'exemple de la CADA qu'a cité fort pertinemment Maître Carcinti est là pour dire, ça bloque l'enquête. C'est-à-dire que le médiateur, le glyphosate, les biphénols B, les petits bébés sans bras ou sans mains, les grands cigarettiers, etc., vous, théoriquement, vous ne devriez plus entendre parler de ce type de choses si on suit la loi. et Maître Comte a bien précisé, c'est lors de l'instance. Voilà, donc on va devoir s'acharner, nous, journalistes, lanceurs d'alerte, historiens, chercheurs, ONG, syndicats, etc., etc., à prouver qu'on est innocent. Donc on aura raison à la fin, comme vient très bien de le dire le magistrat de Lille. On aura raison à la fin. Alors pendant ce temps-là, les gens vont avancer comme ils veulent, où ils veulent, sans les dégâts sur la santé, l'environnement, etc., continueront. On aura eu raison à la fin. Mais 4 ans sur l'environnement, sur la santé, je ne vous fais pas un dessin. Je voudrais aussi me rappeler la dissymétrie des moyens, qui a été citée ici avec grande pertinence aussi. C'est-à-dire que vous êtes journaliste, lanceur d'alerte, etc. Je ne vais pas refaire la liste des menaces qui pèsent sur les différents secteurs de la vie de notre pays. Mais vous allez voir quoi ? Vous prenez un avocat. Du temps, de l'énergie, de l'argent, etc. Vous allez en cassation, etc., etc. Enfin, je vous fais des années et des années. Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qu'on dit, 6-7 ans environ. Hein, environ. Je rappelle que Denis Robert a eu 10 ans de procédure. Mais 10 ans de vie, vous savez, c'est dur, même pour un journaliste qui veut exercer sa profession. C'est dur. Et puis, vous avez une hiérarchie, en principe, qui va vous dire, oulala, surtout pas. J'ai pas les moyens de payer. Donc, vous allez vous dire quoi ? Vous allez sortir comment votre info ? Que vous avez vérifiée, bien évidemment, etc. Vous allez la sortir comment ? Et le problème, c'est pas pour le journaliste, c'est beaucoup plus pour les citoyens. Comment ils vont savoir ce qui se passe ? Comment ils vont savoir ? Et c'est très simple. Je prends les abeilles, par exemple. Les insecticides, soi-disant, c'est pas ça qui tue les abeilles. Bon, si on prouve, et on n'a pas réussi tout à fait à prouver, que si l'entreprise qui fabrique ça va dire « Ah ouais, j'ai une nouvelle molécule. » Attendez, comment on va enquêter, nous, sur la nouvelle molécule pour vous dire que oui ou non, les abeilles vont pouvoir vivre ? Ben non. En principe, si on suit la loi. Donc maintenant, le problème des journalistes, c'est de savoir comment ils vont réussir à travailler malgré cette loi secret des affaires. Et juste pour terminer sur le... Nous, on reconnaît le secret des affaires. La question n'est pas là. Quand nous avons beaucoup travaillé pour obtenir la loi du 4 janvier 2010 sur la protection des sources, et le secret des sources, on avait bien expliqué aux rapporteurs et aux parlementaires qui voulaient bien nous entendre que nous ne demandions pas un secret complet des sources, comme c'est le cas dans certains pays scandinaves. Nous demandions que les journalistes puissent dire non et éventuellement oui à leurs sources. Voilà. Donc, je veux dire, nous, on considère bien qu'effectivement, il y a des secrets qui doivent être conservés. Nous, ce qu'on demandait, c'est qu'un journaliste puisse dire non, je veux protéger ma source. Et oui, je ne la protège pas s'il y a un intérêt supérieur à la donner, ce qui est très rare. Mais qu'on ait la possibilité de dire non. Et c'est pour ça que les parlementaires, qui nous ont bien compris, avaient décidé de voter la loi.
Merci beaucoup, Dominique. Alors maintenant, parole à la Défense, avec d'abord Laure Lavorel, directrice juridique, présidente du Cercle Montesquieu, et qui va se présenter et puis nous expliquer un peu ce qu'elle pense du secret des affaires.
Oui, merci, bonjour. Je représente le Cercle Montesquieu. Le Cercle Montesquieu, c'est une association de directeurs juridiques français. Nous sommes donc les praticiens du droit des affaires dans l'entreprise. À ce titre, nous... sommes là pour protéger les intérêts de l'entreprise, mais également pour veiller à ce que les règles qui s'imposent aux entreprises comme aux citoyens en France soient respectées. À titre personnel, je suis dans la vie civile, comme vous disiez, monsieur le juge. Je suis directeur juridique international d'une entreprise américaine. Et je le souligne parce que international signifie que je couvre le monde entier, sauf les États-Unis et l'Amérique du Sud. J'ai donc une vision sur différents types de juridictions, ce qui est intéressant dans ce débat. En plus de ça, dans mon époque passée, j'ai été avocat pendant 8 ans au barreau de Paris, puis de Nanterre, juge consulaire, chère madame. où j'ai
rien contre les juges consulaires.
Non, mais je peux vous dire qu'ils exercent leur mandat avec, je pense, beaucoup de professionnalisme, pas moins que les magistrats dits professionnels. La grande différence étant qu'ils sont bénévoles, mais ils rendent la justice au nom du peuple français avec, je crois, intégrité. Je préférais préciser ce point-là. Et donc, ce que je voulais vous proposer simplement aujourd'hui, c'est plus de m'axer sur un éclairage du secret des affaires. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit précédemment, que pour moi, il n'y a pas de contradiction directe entre le secret des affaires et le secret des sources. Le secret des sources n'est pas un domaine, cela dit, que je connais. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de partager éventuellement avec vous ma vision de la loi secret des affaires. Et je voulais vous proposer très rapidement un voyage dans le temps et dans l'espace, si vous voulez bien m'accompagner. Dans le temps, parce que, chère madame, permettez-moi de vous dire que la question du secret des affaires ne date pas de l'époque où le président actuel de la République était à Bercy, mais bien antécédemment. Et c'est important de le souligner parce qu'il ne s'agit pas d'une des dernières mesures qu'un gouvernement aurait trouvées, peut-être sorties du chapeau pour protéger les entreprises. Au contraire, si on fait également un voyage dans l'espace, en même temps que dans le temps, parce qu'il est important de regarder ce qui se passe au niveau mondial, qu'on soit d'accord ou pas avec le phénomène de mondialisation, on sait aujourd'hui que le commerce est mondialisé, on sait que ce n'est pas seulement l'affaire des entreprises du CAC 40, mais également celle de nos PME françaises, dont nous défendons tous, je pense, dans nos différents métiers, l'attractivité. Et donc, juste rapidement, il est quand même important de souligner que cette question de protection des affaires, qu'on appelait peut-être plus à l'époque la protection des informations confidentielles, elle date de 1994. Et c'est l'OMC qui avait entamé certains débats, puis commis un texte qui a été ratifié par la plupart des pays internationaux, y compris certains pays en Europe, ratifié, mais finalement jamais réellement mis en œuvre. En 1996, les États-Unis, déçus par l'absence d'effet de cette règle commise par l'OMC, décident de passer un premier acte fédéral qui s'appelle l'Economic Espionage Act, qui donc je le disais à moitié en français, en moitié en anglais. Donc c'est c'est l'acte sur l'espionnage et l'économie. Je préfère le traduire en français, parce qu'un mélange des deux, ce n'est pas très clair. Et parce qu'à l'époque déjà, donc on est seulement en 1996, les États-Unis bien évidemment comprennent que le sujet de la protection des intérêts industriels et patrimoniaux de l'entreprise est un sujet vital pour leur économie. Il faudra attendre 2016... pour qu'aux États-Unis soit passé un acte qui s'appelle le Trade Secret Act en 2016, qui codifiera, parce qu'aux États-Unis, on codifie plus qu'on ne croit, il y a quand même beaucoup de lois écrites, ce n'est pas qu'un droit jurisprudentiel, donc il sera une codification extrêmement élaborée de la question du secret des affaires. En France, en parallèle, il faut remonter à 2012, en fait, pour qu'une première fois, on souhaite, à l'époque, sur initiative parlementaire, on souhaite codifier et réglementer la question du secret avec la ferme intention, quand on lit les débats de l'époque, enfin les débats, il n'y a pas eu beaucoup de débats, mais quand on lit l'intention des parlementaires de l'époque, donc c'est un projet qui ne venait pas du gouvernement mais des parlementaires, la ferme intention de protéger le patrimoine de nos entreprises. Et le patrimoine de nos entreprises, ça a été très bien dit dans le public tout à l'heure, il s'agit autant de nos PME que les entreprises du CAC 40. Je pense que c'est important d'avoir des champions internationaux. On en a en France, on en a dont on peut être fier, mais on sait très bien tous ici que le tissu français industriel et commercial est fait sur toute PME. Et donc, cette première initiative parlementaire qui ne donnera lieu à finalement aucun projet de loi abouti date, je le disais, de 2012. Et ce qui est intéressant de relever tout de même, c'est pour vous donner un peu de perspective sur là où on en est arrivé aujourd'hui, c'est un projet qui prévoyait des sanctions pénales. Donc une loi extrêmement restrictive et qui sanctionnait tout défaut la divulgation d'un secret des affaires. Par la suite, un deuxième projet de loi en 2014, également proposée par des parlementaires avait été de nouveau mise sur la table. Ce projet de loi prévoyait des sanctions civiles et pénales, donc une évolution par rapport au projet de 2012, mais tout de même encore un texte extrêmement sanctionnateur, si je ne sais pas si le mot existe en français, en tout cas qui sanctionnait violemment. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que après, et là je rejoins votre historique, je suis juste remontée un peu plus dans le temps parce que j'aime l'histoire, après on se retrouve en 2014 avec en effet une proposition dans la loi Macron qui ne tient plus en compte, qui ne reprend plus les sanctions pénales, qui se concentre sur le civil et le commercial. En effet, ce projet est aussi abandonné. Finalement, la France, à titre national, n'aura plus d'initiative sur cette question. Et la loi dont on parle aujourd'hui, ça a été bien sûr dit au préalable, c'est une loi qui est une pure retranscription de la directive européenne. Alors, on peut le déplorer ou pas, mais ça n'est pas une initiative nationale. Et mon voyage dans le temps avec vous me semblait important parce que ça permet de mettre en perspective la volonté du législateur français, qui finalement a beaucoup évolué, et la réalité aujourd'hui des faits, qui est que par rapport au précédent projet de loi, c'est une loi qui, de mon point de vue de praticien, me semble extrêmement équilibrée et pas vraiment très contraignante. Elle l'est, bien entendu, puisqu'on a des mesures civiles et commerciales, mais il n'y a plus du tout de sanctions pénales. Je pense que c'est un point qui n'avait pas été évoqué encore aujourd'hui, et c'est important de l'indiquer pour mesurer toute la philosophie qu'il y a derrière, cette, encore une fois, cette transcription de la directive européenne. Alors, ce que je voulais simplement vous dire, parce que je suis directeur juridique dans une entreprise, c'est qu'il est très important de comprendre, ça a été aussi dit, et j'ai trouvé ça important de le relayer à nouveau, ces lois-là, elles peuvent avoir des effets, et je pense qu'on est là pour en discuter, elles peuvent avoir des effets collatéraux dont il faut qu'on arrive à mesurer l'impact sur les journalistes, sur les lanceurs d'alerte, peut-être, sûrement. Discutons-en, on est là pour ça. Mais il est important de comprendre que l'objectif de cette loi, qui, encore une fois, est une transposition de la directive, est un objectif de protection du patrimoine de l'entreprise. La manière dont les entreprises peuvent gérer la protection de leur patrimoine, ce sont le dépôt de brevets, ce sont éventuellement d'autres types, comme la propriété intellectuelle, d'autres types de protection. Mais en revanche, les entreprises sont très souvent démunies pour protéger leurs informations commerciales au sens large. Il n'y a pas de protection pour ça. Pour protéger leur savoir-faire, ça dépend de quoi on parle, mais ce n'est pas toujours évident. Dans les nouvelles technologies, on sait qu'en Europe, il y a très peu, voire pas, enfin c'est compliqué de passer sous forme de brevet, donc on est sur la propriété intellectuelle. Donc ce sont des domaines qui sont quand même complexes. Et il était très important pour la compétitivité de nos entreprises en Europe et en France qu'il y ait des lois qui permettent de mieux appréhender la protection du patrimoine de l'entreprise. Pour des questions judiciaires, vous savez tous qu'on a maintenant une loi américaine qui s'appelle le Cloud Act et qui permet aujourd'hui un accès direct dans certains domaines que je ne vais pas développer vraiment, mais un accès direct des autorités judiciaires ou d'une partie américaine sur certaines des données de nos entreprises. Mais on n'a pas besoin du Cloud Act pour s'inquiéter. L'espionnage industriel est aussi un sujet éminemment intéressant et on peut aussi regarder du côté de la Chine. La manière dont on met en place les procédures extrajudiciaires et internationales aujourd'hui, par le passé, a toujours posé un problème aux entreprises françaises. Il y a des affaires célèbres et il est évident qu'il était important qu'on retrouve en France une forme de souveraineté judiciaire. La loi de blocage qui existe depuis fort longtemps ne fonctionne pas. Elle n'a jamais été appliquée de la manière dont elle aurait dû l'être par les tribunaux et elle ne constitue pas aujourd'hui un bouclier suffisant pour protéger le patrimoine des entreprises. Et c'est donc la raison pour laquelle l'idéal et la perfection n'étant pas de ce monde, les entreprises de manière globale, en tout cas au cercle Montesquieu, nous considérons que cette loi secret des affaires est une avancée sérieuse, intéressante dans la protection des intérêts de l'entreprise. Et alors, peut-être aussi une petite précision, l'intérêt de l'entreprise, ça n'est pas que les actionnaires. En France, on sait, et notamment c'est très intéressant maintenant qu'on a la capacité de formuler sur la notion de raison d'être, puisque vous savez qu'il y a une modification juridique du droit des sociétés, qu'une entreprise maintenant doit avoir une raison d'être. On sait que l'entreprise, elle appartient à ses actionnaires, mais elle appartient également à ses salariés, elle appartient à des tas de communautés diverses et variées. Et il est important, quand on protège une entreprise, de comprendre, et les tribunaux de commerce en savent quelque chose lorsqu'ils sont en procédure collective, que l'emploi fait partie également de la stratégie des entreprises, la protection de l'emploi. Et donc, pour les directeurs juridiques, c'est une loi qui permet d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises. J'ai vécu une affaire, lorsque j'étais juge au tribunal de commerce, en procédure collective, où une entreprise n'a finalement, qui était en redressement judiciaire, n'a finalement pas reçu l'offre qu'un repreneur lui avait promis de faire, parce que comme il n'y avait à l'époque, c'était avant cette loi-là, il n'y avait à l'époque pas de protection de son savoir-faire, le repreneur finalement n'a pas déposé son offre au tribunal de commerce, a tout simplement recruté le directeur technique de l'entreprise qui était en espoir de procédure de redressement. Et comme l'entreprise n'avait pas pu protéger ni le savoir-faire ni les fichiers clients, le directeur technique de cette entreprise est parti chez ce potentiel repreneur et l'entreprise a été liquidée. Et les employés, évidemment, ont fait l'objet d'un plan social. C'est donc cette anecdote, ce n'est pas une, mais ce cas pour vous indiquer que, attention, quand on parle du secret des affaires, la protection du patrimoine, ça peut être sur des procédures étrangères, ça peut être pour les entreprises du CAC 40, mais ça peut être aussi dans le cadre de redressement judiciaire pour les PME. Donc je voulais attirer l'attention de cette table ronde et de l'auditoire ce matin sur cet angle d'approche, qui est, donc, comme je le disais, un angle international, qui est, je l'espère, pas un parti pris, mais plus le partage de ma sensibilité au quotidien dans ma pratique.
Merci beaucoup. Maintenant, Camille Ahéry, avocat au barreau de Paris, avocat d'affaires, qui va également parler du secret des affaires, secret des sources. Y a-t-il ou pas une contradiction ?
Non. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de m'accueillir. Je suis très heureux d'être parmi vous pour ces débats passionnants, avec la parole à la défense à la fin. Mais j'espère qu'on va avoir un débat aussi. Je m'inscris évidemment dans ce qui a été dit par Laure Lavorel à l'instant sur la genèse de tout ceci. Parlons un peu de droit un instant. La protection de l'information économique est très très difficile à constituer. C'est un vrai débat doctrinal très compliqué et la France a choisi philosophiquement, historiquement, de défendre, ou en tout cas d'interdire le franchissement d'une frontière. Mais elle ne pouvait pas protéger le territoire. Je m'explique. L'information économique, l'information intellectuelle qui a une valeur économique, je vais lui donner une petite noblesse supplémentaire parce que si on la marchandise trop, on va la dégrader. Mais elle a comme sous-jacent une réflexion et nous sommes tous auteurs de cette table, tous dans cette pièce. Nous exerçons des activités intellectuelles et nos activités intellectuelles ont une valeur économique. Tous ici. Et nous sommes très contents que nos activités intellectuelles soient protégées à certains titres par la loi, pour que notre valeur personnelle puisse être préservée. Et en France, on a toujours choisi de protéger l'intrusion. Le vol d'une information était interdit, mais l'information était compliquée à protéger. L'abus de confiance dans l'entreprise, c'est-à-dire le fait que je m'approprie une information qui m'avait été légitimement confiée, était interdit. L'intrusion dans un système de données informatiques était interdit. On a toujours sanctionné le franchissement de la ligne, mais l'information économique était très difficile. Parce qu'il fallait la caractériser. Et les seules informations qui étaient protégées, comme vous le savez, ce sont celles qui étaient couvertes par un titre de protection industrielle, une marque, une topographie, des brevets, évidemment, mais qui impliquaient, évidemment, une diffusion et une publication pour rendre opposable leur protection, mais qui, en même temps, en éventait la substance. Et puis, le monde a changé. Et il est évidemment essentiel de parler de la globalisation. Les entreprises françaises ont été exposées à deux phénomènes. Le premier, c'est que des outils ont été confiés à des entreprises étrangères pour venir attaquer à des fins tactiques des entreprises françaises. et de la même manière, des régulateurs étrangers de plus en plus puissants qui bénéficient de règles d'extraterritorialité sont venus s'inviter dans la vie économique française. Et nous avons longtemps, et je parle sous le contrôle des éminents magistrats qui se trouvent dans cette pièce, nous avons souvent, longtemps, été plus impressionnés, plus inquiets des régulateurs étrangers que de nos propres régulateurs en France. Et ce n'est pas normal, parce que c'est une faiblesse structurelle de notre pays et de notre démocratie. Et il y a eu un double phénomène qui s'est produit. Le premier, c'est que l'information est devenue reine. Les informations que vous produisez, les informations que nous sommes. Les prospectivistes, il faudrait inviter dans ce débat, si on veut vraiment avoir une réflexion profonde, utile, un prospectiviste. Et qu'est-ce qu'ils vous diront, les prospectivistes? Un consensus, hein, que je vous raconte, ce n'est pas une perception incantatoire. D'ici quelques années, tout ce qui sera matériel deviendra de la commodité. De la même manière qu'on vous donne quasiment aujourd'hui une machine à café quand vous achetez des capsules, de la même manière, demain, on vous mettra à disposition des vélos, des voitures, parce que ce qui sera important, c'est l'information que vous produisez et qui, elle, peut être marchande. Et donc, une réflexion mondiale, fragmentée, s'est constituée pendant un certain temps sur comment nous allons protéger ces informations et ces procédés. Et de la même manière, la France a voulu harmoniser son dispositif législatif. Il y a eu, et l'Europe, la directive sur le secret des affaires, parce qu'il fallait donner à ces informations un peu informe dans leur conceptualisation, complexe dans leur protection, une protection supplémentaire. Parce que d'autres pays, très puissants, bénéficiaient de ces protections-là. Et de la même manière, c'est la loi Sapin 2, nous nous sommes dotés d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre d'obligations qui étaient la précipitation chimique de normes éthiques et d'une réflexion sur laquelle je reviendrai, qui avait commencé à se disséminer dans la vie des affaires, pour le bien de tous, et qui ont créé des organisations, une agence française anticorruption, avec une loi sur la transparence, qui est en train, laissez-lui 5 minutes, laissons-lui collectivement quelques années. Vous savez depuis Einstein qu'on n'atteint pas le résultat final tout de suite. Laissons quelques années à cette nouvelle série de règles pour voir comment elle transforme notre société. Elle la transforme déjà. Si vous calculez le nombre de CEGIP qu'il y a eu, et le montant emmagasiné par ces conventions judiciaires d'intérêt public, je parle sous le contrôle de mon camarade Jérôme Carcinti, elle dépasse de loin l'ensemble des condamnations des 10 dernières années devant les juridictions correctionnelles en matière d'atteinte à la propriété. On n'aura jamais empoché autant d'argent dans le cadre de procédures judiciaires mises en œuvre. Donc il y a même déjà un bénéfice économique pour le justiciable français. Donc la question est de savoir ensuite si ce dispositif porte atteinte à un droit. Et je ne peux pas m'empêcher d'être un peu surpris par la dimension un peu incantatoire, un peu messianique, des craintes qui ont été exprimées par mon honorable confrère Antoine Comte et par M. Vincent Charmoyot. J'aurais quand même entendu dans ma vie d'avocat un magistrat me dire qu'il ne faut pas attendre la jurisprudence. Si il faut attendre la jurisprudence, M. Charmoyot. Bon, d'accord. Alors, autorisez-moi à faire un peu de bon dol dans mon expression. Mais je voudrais qu'on croie en cette loi. Effectivement, cette loi dit qu'un certain nombre de secrets peuvent être protégés, avec une exception, je suis vraiment désolé. Le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, mais aussi dans le but de révéler une faute ou un comportement répréhensible. Comment est-ce que cette loi pourrait être, pour reprendre votre expression, monsieur le professeur, un cache-sexe de turpitude de l'entreprise? De toute façon, elle n'est pas opposable au régulateur pénal. Elle ne l'est pas. J'ai jamais vu une entreprise espérer un jour que le secret des affaires soit une opposition à une perquisition. C'est une rigolade. C'est une rigolade. C'est en réalité une défense qui m'est proposée lorsque, dans un rapport horizontal avec quelqu'un de mon acabit, je suis dans une confrontation face à des articles 145 tactiques, dans des situations où on essaye, sous couvert d'un vague préjudice né ou à naître, venir collecter de l'information et une information qui m'appartient. Cette disposition réserve également un droit qui semble absolu, je reviendrai sur la notion d'instance, au bénéfice de la liberté d'expression et de communication. Alors effectivement, c'est dans une instance que ça doit avoir lieu. C'est dans une instance que ça doit avoir lieu. Oui, évidemment. Je voudrais juste vous rappeler une chose. Si ça n'était pas dans le cadre d'une instance, ça reviendrait à quoi ? Et avec l'immense respect que je peux avoir pour toutes les communautés qui sont représentées ici, toutes les communautés professionnelles qui sont représentées ici, pour la communauté à laquelle vous appartenez, madame. Ne pas mettre instance reviendrait à dire quoi ? Reviendrait à dire que demain, un journaliste a une capacité d'aller collecter une information, que même un procureur doit justifier ou qu'un juge doit justifier pour des raisons, avec un contrôle d'un autre juge pour pouvoir aller obtenir. Si moi, demain, je veux aller dans l'entreprise de Laure Lavorel collecter une information, je dois me soumettre sur requête ou en référé, etc., expliquer un certain nombre de choses, produire des commencements de preuves et sous réserve du contrôle d'un juge, civil ou commercial. D'ailleurs, je voulais juste vous rassurer, si jamais je décidais d'attaquer un journaliste au visa de cette disposition, je n'irai pas devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce serait résolument incompétent, j'irai devant une juridiction civile. Et de toute façon, derrière, en appel, ce serait une juridiction. Ah, on est d'accord, mais là, c'est une règle de compétence, qui est très ancienne. Mais tout ça pour dire que, oui, dans ces conditions, moi, j'aurais à me soumettre à un juge. Un juge qui viendrait perquisitionner devrait se soumettre à un juge des libertés. Un procureur qui viendrait perquisitionner serait également contrôlé par une juridiction, in fine, in fine. Mais vous êtes en train de me dire en réalité qu'une demande d'information, sous une, qui serait un peu équivalente à une forme de réquisition judiciaire, n'obéirait en réalité à aucune forme de défense, à aucune forme de contrôle. Et il nous arrive de voir, mais c'est un peu ce que j'ai entendu quand même, genre, hors instance, on ne pourra pas, et ça portera atteinte à la liberté d'informer, de m'en poser des questions, et les entreprises ou les particuliers hein, qui sont interrogés répondront. Et si jamais, effectivement, il faut qu'un article soit publié, eh bien, c'est devant la 17e chambre, à Paris en tout cas, qu'un débat éventuel, dont nous savons à quel point il est très souvent favorable au nom de la bonne foi, à la liberté d'informer, se déroulera. Mais je ne vois pas très sincèrement, et ce n'est pas du tout une position idéologique, mais je ne vois pas en quoi, très sincèrement, hein, ce dispositif de protection prive n'importe lequel d'entre nous, ou bien de la volonté d'être informé, du devoir, du droit d'être informé, ou n'importe lequel d'entre nous qui aurait vocation à aller collecter une information au titre de son activité de journaliste, d'aller solliciter cette information, de mener une enquête et de la faire reproduire. Bon courage pour aller attaquer quelqu'un sur le secret des sources. Bon courage. Nous connaissons tous, soyons pas hypocrites, la jurisprudence de la 17e chambre, qui est très très protectrice. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, j'ai été un peu long, pardonnez-moi, je voudrais vous rassurer sur la vie intime des entreprises face à l'émergence de ce qu'on appelle la soft law. Toutes ces questions que vous êtes en train de poser sont éminemment nobles. Toutes ces réflexions que nous avons ce matin sont éminemment utiles. Qu'est-ce qu'elles constituent au fond ? Elles constituent une forme de réflexion qui est née depuis quelques années, qui est celle de la confrontation de la vie des affaires à l'éthique. On va appeler ça, pardonnez-moi de ce néologisme, mais c'est un néologisme qui est devenu tellement courant que nous pouvons le conceptualiser collectivement, c'est devenu ce qu'on appelle de la soft law. C'est-à-dire que c'est une série de normes qui ne sont pas de droit écrit, qui n'ont pas vocation normalement à s'appliquer dans mon ordre juridique, mais que je vais me mettre à respecter. Parce que je considère qu'elles sont ou bien légitimes et en avance sur leur temps, ou tout simplement, ô toute puissance des médias aujourd'hui, des médias qui sont également empruntés par des organisations non gouvernementales, par des lanceurs d'alerte, la déflagration dans la vie des entreprises d'une atteinte à des normes éthiques fondées sur des règles non écrites est au moins aussi importante aujourd'hui que la violation de normes éthiques qui nous seraient reprochées. Je dis, c'est un nous un peu collectif dans lequel je m'inscris, mais c'est le rôle qu'on m'a attribué ce matin. Mais lorsque moi, je défends une entreprise et qu'on m'annonce qu'une ONG à Paris, à Bordeaux, à Singapour, aux États-Unis, a décidé de noter notre responsabilité sociale et environnementale, nous interroge sur notre chaîne de valeur, sur des sous-traitants que nous pouvons avoir à l'étranger, je peux vous assurer que le dispositif qui se déploie immédiatement dans l'entreprise afin de vérifier, de contrôler, de corriger et d'essayer d'harmoniser, de répondre, est extraordinairement important. Nous sommes aujourd'hui très impressionné. Lorsque Jérôme m'a envoyé une note de synthèse sur nos propos, il m'a traité dans une conversation qu'on avait eu le fait que j'avais dit que j'étais préoccupé par les ONG. Je ne suis pas préoccupé par les ONG, mais c'est vrai que je suis très préoccupé par l'image que les ONG peuvent décider de renvoyer d'un de mes clients. Et lorsqu'une ONG nous interpelle, nos clients nous appellent. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ? Comment est-ce qu'il faut qu'on réponde ? On va mettre en place un audit interne, on va vérifier ce qui s'est passé. Je vous invite à interroger
les entreprises, mais également les ONG, sur le rapport assez sophistiqué et parfois compliqué, mais utile, qu'elles peuvent avoir ensemble. Moi, je ne crois pas, justement, qu'il y ait un affaiblissement, et je pense même qu'il y a un rééquilibre des forces qui est en train de se constituer. C'est une perception certainement biaisée que vous aurez le droit de critiquer, mais je considère qu'il y a quand même un rééquilibre et que cette loi ne constitue pas, loin s'en faut, un nouveau déséquilibre entre les puissants et les plus fragiles. Voilà.
Si toutes les entreprises étaient telles que le décrit notre voisin, il n'y aurait même pas de problème.
Merci, Maître Aéry, pour votre exposé très clair, en tout cas sur votre position, je pense ici, assez controversée, mais qui donne un point de vue, certes, intéressant, en tout cas éclairant pour une part. Alors, peut-être est-ce que je pense qu'on peut élargir la table ronde à tout le monde. Antoine Deltour et Monsieur Mercier, vous êtes les bienvenus pour discuter également autour de la question centrale, en réalité, qui est celle qui nous oppose. Y a-t-il ou pas un risque pour les libertés publiques et notamment pour la liberté de la presse ? Peut-être tout de suite donner la parole à Antoine Comte, parce que moi j'ai été très séduit par votre exposé lorsque vous avez relevé à l'occasion d'une instance et justement vous répondiez en disant mais où ça peut-il se passer ailleurs que l'occasion d'une instance, justement c'est en tout cas une première approche et je vais laisser Maître Comte répondre, mais on peut se demander ce qui contraindrait la presse à être devant une instance. En réalité, la presse ne doit pas être devant une instance. Et finalement, c'est cette règle du secret des affaires qui va l'y contraindre et peut-être, en réalité, détruire ce qui fait aujourd'hui la liberté de la presse, parce qu'on sait très bien que les puissances économiques ne sont pas, et les forces économiques et financières ne sont pas du côté de la presse. Maître Comte, qu'est-ce que vous pourriez dire finalement sur ce que vous a contrecarré ou contredit Maître Aéry?
Il l'a fait avec son habituel talent, donc ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. et ensuite viennent les dagues dans le dos, grand classique, mais si on vous prend dans les mains comme ça. Non, plus sérieusement, j'ai bien précisé qu'on était en prospective. Et moi, je suis obligé, comme juriste, de lire les textes. Le texte introduit, de la loi de 2018, introduit une restriction sur le caractère opposable ou pas. Donc, en fait, le caractère du secret des affaires n'est pas opposable en cas d'instance. Alors, quand j'entends dire, je suis un peu d'accord avec le SNJ, que toutes ces sociétés sont extrêmement attentives au point de vue des ONG, je veux bien le croire, et je veux bien créditer mon contradicteur sur ce point de ce qu'il ait raison. Mais la réalité est infiniment plus compliquée, je crois. Alors, vous faites une enquête, par exemple, puisque celle-là va aboutir au tribunal bientôt, vous faites une enquête sur un grand groupe pharmaceutique, Servier, si ma mémoire est bonne, je ne voudrais pas citer des gens en me trompant, mais qui ont diffusé pendant des années et des années des choses qui, visiblement, portaient atteinte à la santé publique. Je dis visiblement, parce que j'attends évidemment le jugement comme tout le monde. Vous la faites comment aujourd'hui? Je veux dire très concrètement. On vous dit, s'il y a une instance, le secret des affaires ne vous est pas opposable. Mais vous êtes en amont de l'instance. Dans l'enquête, hein, puisque l'enquête a quand même duré, ou alors on peut parler d'autres enquêtes. Les enquêtes ont duré des années. Et vous allez demander à Servier de vous communiquer le détail du contenu, par exemple, d'un vaccin ou d'un produit quelconque qu'il met sur le marché, qui a été accepté par l'instance de protection de la santé, d'ailleurs, hein, pendant un certain temps. Jusqu'à temps qu'on comprenne que cette instance a été un petit peu cornaquée, si j'ai bien compris, par un certain nombre de, de patron ou dirigeant ou je ne sais quoi, cadre de ce groupe pharmaceutique. Vous faites comment l'enquête? Je veux dire, il n'y a aucune obligation. Quand... Moi, je me limite au texte, hein, pour l'instant. Je n'ai pas d'autre choix. Je me limite au texte. Le texte dit, en cas d'instance, le secret des affaires n'est pas opposable. Mais en amont de cette instance, qui pour l'instant n'existe pas, pour Servier, elle existe, mais pour d'autres n'existe pas, ou n'ont pas été encore, ne sont pas arrivés à leur terme. Vous faites comment votre enquête quand vous êtes journaliste? Vous la faites comment? On peut vous opposer à n'importe quel moment le secret des affaires. Et par exemple, les éléments, les ingrédients dans un vaccin ou dans un produit, c'est justifié qu'on vous dise, on ne vous les donne pas, d'une certaine manière. Parce qu'on pourrait quand même, dans ces conditions, le passer aux concurrents, je dis n'importe quoi, et le refaire faire en Allemagne ou en Irlande ou je ne sais où. Sauf que quand vous avez les instances, alors là on parle d'instances au sens générique du terme, quand vous avez des instances qui ne remplissent pas leur rôle, comme l'instance de protection de la santé, qui ne remplissent pas leur rôle parce qu'elles ont été cornaquées par je ne sais quelle personne dans l'entreprise, ou personne avec un S hein, dans l'entreprise, sans que je porte d'accusation parce que je ne connais pas le détail du dossier, il n'y a que la presse qui peut soulever la question de la santé publique. Et je vous rappelle l'arrêt de Noël Mamère, en l'occurrence, de la Cour européenne, qui a relevé qu'il avait, dans une émission, levé les bras en disant, le professeur Pellerin, qui était chargé de la protection de l'Institut de protection des rayons ionisants au moment de Tchernobyl, et qui disait « Oh, ça ne passera pas la frontière », conception un petit peu particulière de la ligne Maginot, qui revient maintenant avec le nucléaire, c'est un peu particulier, mais qu'est-ce qu'a dit la Cour européenne? La Cour européenne a tout simplement dit « La question de santé publique est une question centrale sur laquelle les citoyens sont autorisés à faire des recherches à travers la presse, naturellement, et à aboutir à comprendre ce qui risque. » Et cet arrêt était un arrêt de référence sur la santé publique. Donc, comment fait-on une enquête en amont de l'instance où, éventuellement, on peut ne pas vous opposer le secret des affaires? Voilà, c'est quand même une question sérieuse. Sachant qu'à la 17e, contrairement à ce que vous dites, et je l'avais dit en exergue de mes explications, je suis désolé, je suis un peu long, mais j'essaie de répondre globalement, à la 17e, on est incompétent. On n'examine pas une soi-disant diffamation, une soi-disant critique d'un produit et d'un service. On ne le fait pas. La loi sur la presse ne s'applique pas à ça. Donc, quelle loi s'applique ?
Je ne sais pas si ça va devenir un dialogue, je ne veux pas vous priver de... Mais je vais être rapide. D'abord, quand vous dites comment fait-on une enquête, de la même manière, chers confrères, dont on faisait une enquête sous le visa de la loi de 1881. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, hein, ce n'est pas parce que cette loi arrive et qu'elle dit que dans le cadre d'une instance, si jamais c'était opposé, il y aurait une irrecevabilité d'un argument basé sur la protection du secret des affaires, que ça prive le journaliste de poser toutes les questions qu'il veut avant l'existence d'une enquête. Vous pouvez... Non, mais pardon. Vous dites quoi? Vous dites il va aller se faire voir. Mais excusez-moi, mais avant la loi sur le secret des affaires, le journaliste faisait... Il allait aussi se faire voir.
Oui, il n'y avait pas un obstacle.
Mais il y avait la loi de 1880. Moi, je pouvais...
Elle dit pas ça. C'est peut-être pas un obstacle, ça.
C'est pas un obstacle. C'est une protection.
Très bien.
La loi de 1880 ne disait pas le directeur de la publication qui pose une question.
Micro.
Le directeur de la publication ou le journaliste qui pose une question à monsieur Intel, qui est ministre, eh bien, monsieur Intel, qui est ministre, peut ne pas répondre et on peut lui opposer n'importe... Non. Après, c'est un argument, vous savez aussi bien que moi, c'est un argument factuel du sérieux de l'enquête devant la 17e, qui n'est pas compétente quand même sur les produits, etc., etc., on l'a dit. C'est très différent.
Non. Très respectueusement, non. Je vais vous dire, d'abord, la première chose, c'est que le fait que la 17e, la loi est exclue Le dénigrement commercial est plutôt une bonne chose pour la possibilité qui est donnée à n'importe lequel d'entre nous de critiquer la valeur commerciale d'un produit ou d'un service. Qu'on ne fasse pas de diffamation. Parce que là, pour le coup, je pense que tout le monde aurait été plutôt troublé de savoir qu'à chaque fois qu'il y a une critique commerciale, ça relève le cas échéant de la diffamation. Donc le fait que ça ne soit pas couvert par la loi de 1881 est plutôt une... Je pense, reconnaissez-le, vous semblez un tout petit peu hésité, mais c'est quand même une bonne chose.
Ouais, alors la responsabilité civile. Mais c'est une responsabilité civile avec des procédures différentes.
Mais là, on n'est pas dans une. D'accord, mais on n'est pas en train de travailler dans une boîte de pétri, on n'est pas en train de secouer des tubes à essai, on est dans la vie réelle. Dans la vie réelle, est-ce qu'il y a beaucoup d'actions menées en dénigrement devant des juridictions civiles en France? Oui. Vous savez bien. Mais non, il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu.
Il y en a plein.
D'accord. Alors, parce que Bolloré
en a fait. Moi, j'en ai plein.
Alors, il faut empêcher M. Bolloré d'en faire. C'est ça l'objectif.
Un acteur mineur sur le plan économique.
Non, mais parce que.
C'est pas un acteur mineur.
Il y en a très, très peu. Ça relève de la responsabilité civile, d'une question de préjudice. Il y a des obstacles colossaux en matière de construction de la preuve. Non, mais dans la vie, pardonnez-moi, dans la vie des. Vous faites venir un très humble praticien. Laissez-moi vous dire que dans la vie des affaires, il y a très, très peu d'initiatives qui sont menées dans des affaires de dénigrement. Bon, je reviens à ce que mon confrère Comte évoquait sur... C'est pas parce que... Vous disiez, pardonnez-moi, je voudrais juste reprendre la formulation que vous avez employée. Vous sembliez dire qu'il n'est pas écrit qu'un directeur de la publication ou qu'un directeur d'une entreprise peut refuser. Mais est-ce que j'ai besoin... Non, vous parliez même du directeur d'une entreprise qui pourrait refuser. Mais est-ce qu'un directeur d'entreprise a besoin qu'il y ait écrit dans une loi qu'il a la possibilité de refuser de répondre aux questions d'un journaliste pour refuser de répondre aux questions d'un journaliste? Excusez-moi, mais on est quand même dans un espèce d'espace de liberté. Le journaliste prend ses responsabilités à une liberté qui est essentielle, je le redis, parce qu'on pourrait peut-être même penser que nous sommes dans une forme de pondération de la liberté de la presse et de la nécessité de l'information. Pas du tout. Pas du tout. Le journaliste prend ses responsabilités, pose ses questions. Et de l'autre côté de la barre, je peux refuser de lui donner l'heure si j'ai envie. Et j'assumerai les responsabilités du fait que j'ai refusé de lui donner l'heure. Et ensuite, s'il y a un débat judiciaire, eh bien j'en suis d'ores et déjà privé, puisque je ne pourrai en aucun cas justifier que le secret des affaires était légitime sur ce refus. L'information aura circulé dans la vie réelle, l'information aura déjà circulé, je serai déjà beaucoup plus loin, mais si...
Alors... Dans l'enquête, elle n'a pas encore circulé.
Mais vous... D'accord, alors, est-ce que vous allez sortir l'information?
On va se poser des questions.
Eh ben, très bien. Et vous allez collecter d'autres informations.
Vous allez dire, je vais vous poursuivre.
Et vous allez collecter d'autres... D'accord. Il est possible que je vous dise... Et je vais vous dire... D'accord. Alors, admettons. Je vais endosser ce sale rôle. Je vais vous dire, je vais vous poursuivre. Et vous allez dire, bah, très bien, poursuivez-nous. Si, vous allez mener des enquêtes, vous allez collecter des informations dont je ne pourrais pas véritablement... Et c'est c'est pas une critique, donc je ne pourrais pas complètement aller percevoir l'origination, loi sur le secret des sources. Et ensuite, nous aurons le cas échéant un débat devant la 17e, qu'en réalité nous n'aurons pas, parce qu'en réalité, dans 80% des cas, nous recommandons à nos clients de ne pas aller devant la 17e, parce que ça va déplacer et rendre public un débat.
Chacun son tour, s'il vous plaît.
Donc voilà, c'est tout. Je peux comprendre que ça puisse présenter dans certaines formes, dans un angle particulier, une lecture qui soit celle d'une forme d'abus, mais je ne vois pas. Non, mais je ne le vois pas.
Bon, confrère, je quitte mon rôle de modérateur deux petites secondes, mais...
parce que vous avez tenu le rôle de modérateur.
Oui, je suis très, très... je suis très modéré, là, aujourd'hui, très, très modéré. Article L151-1. En réalité, la question, elle est posée dans la définition. La définition du secret des affaires nous dit « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants ». Il y en a trois. Elle n'est pas connue ou aisément accessible à des personnes familières à ce type d'information en raison de son secteur d'activité. Deuxièmement, et là, je pense que c'est la plus marrante, celle-ci. Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. Okay. Troisièmement, elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables compte tenu des circonstances pour en conserver le caractère secret. En réalité, ce que nous dit la loi, c'est que, est secret des affaires, ce que l'entreprise décide de considérer comme secrète. Et donc, Et en réalité, tout le débat, je vais vous le dire, je pense qu'on aurait pu largement éviter les polémiques d'aujourd'hui si les parlementaires, peut-être trop influencés par les lobbies, nous avaient un tout petit peu entendus et avaient pu considérer que seul le secteur concurrentiel, par exemple, aurait pu être protégé par le secret des affaires. Ce n'est pas ce qu'a choisi la loi. La loi nous dit aujourd'hui, tel que c'est défini, la fraude fiscale, les logiques de corruption, tout cela peut être couvert, et c'est de la prospective peut-être, peut être couvert par le secret des affaires. Je ne parle pas ici là de l'axe pénal, vous avez raison, il n'y a pas d'immunité pénale. Mais en réalité, il y a une immunité qui peut être une immunité de protection, et cela, je pense que la loi, en tant que telle, est en tant que telle protectrice d'un secret qui est effectivement exponentiellement possible de grandir.
Vous avez l'air de dire que le secret que c'est une condition potestative, qu'en somme les entreprises décident elles-mêmes. Mais si vous voulez la pratique, et je vous invite à venir chez nous si vous le souhaitez, ça se passe pas comme ça. On décide pas avec une baguette magique que certaines informations vont être secrètes. Les mesures qu'on doit prendre justement pour que les informations bénéficient du secret, elles sont complexes. On en a parlé ensemble. Elles doivent être auditées. Donc il y a une vraie procédure interne qui est mise en œuvre. Donc on ne peut pas, pour des questions de coûts et d'organisation, protéger n'importe quoi. On protège ce qui fait du sens dans l'intérêt du respect du patrimoine de l'entreprise. Donc ne croyez pas que c'est une disposition potestative.
Monsieur Mercier, je crois que vous vouliez intervenir.
Je vais revenir sur le cache-sexe. Je suis un obsédé. Comment vous dire ? Je suis à la fois profondément d'accord avec toute une partie de ce que vous dites et en même temps profondément en désaccord, mais non, pas avec l'autre partie. Plus en amont d'une chose. Parce que, en fait, vous avez expliqué, et vous aussi, madame, avec beaucoup de brio, ce que, personnellement, je pense aussi et que j'ai essayé de dire très rapidement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il est illégitime à un moment ou à un autre de protéger des intérêts d'une entreprise, etc. Donc la question ne se pose pas, et surtout pas dans une entreprise de bonne foi, comme le sont 99,9% sans doute des entreprises. Mais... ce qui me pose problème, et là, vous voyez, par rapport à ce que vous dites, on ne peut pas opposer comme ça, etc. Bien, si, précisément, vous pouvez l'opposer justement de mauvaise foi, y compris, ça donne prise à... Moi, je suis du point de vue de la communication, vous l'avez compris, c'est mon sujet, mon domaine. On peut même imaginer au nom de ça que certains vont prendre comme système de défense, au lieu de devoir précisément ce que vous avez dit, j'assume, j'ai refusé de répondre à les journalistes. Et ce que je disais tout à l'heure, on le sait, le fait de refuser de répondre peut laisser accréditer une suspicion légitime. Tiens, ils ont quelque chose à cacher. D'accord ? C'est bien pour ça qu'on a inventé des services de communication qui cherchent à travailler l'avant, etc. Mais aujourd'hui, avec ce type de loi, vous pouvez même dire... Je ne peux pas m'exprimer à cause du secret des affaires. C'est-à-dire que vous pouvez, de mauvaise foi... Non, pas vous. Je parle d'une entreprise, mise en cause. Non, mais ça lui donne une ressource, excusez-moi de le dire, une ressource rhétorique supplémentaire qui consisterait à dire « Je ne suis pas désormais confronté simplement à la question du libre choix, du libre arbitre de ma stratégie de défense, etc. » Mais vous pouvez même, avec beaucoup de culot et d'audace, dire « J'aurais bien voulu vous répondre, mais hélas, comme c'est couvert par le secret des affaires, vous comprenez, etc. » Donc, je suis désolé si vous n'imaginez pas que ce ne soit pas possible en termes de stratégie rhétorique, c'est que vous avez beaucoup de problèmes avec la rhétorique. Parce que c'est exactement... La rhétorique, c'est précisément le détournement d'un certain nombre de choses. Eh bien, ça change quand même pas mal de choses, parce que ça peut vous permettre justement d'être du camp de « mais je suis de bonne foi, la preuve, j'aurais voulu vous répondre, mais c'est le droit qui me l'empêche ». Donc, il me semble que le risque que cette loi soit utilisée de mauvaise foi n'est pas nul. Et je n'ai pas dit que tout le monde ferait de preuve de mauvaise foi, etc., mais j'ai dit tout à l'heure, attention à ce que ça ne puisse pas servir de cache. Je ne dis pas que ça le sera systématiquement, mais que ça ne puisse pas. Par ailleurs, je voulais juste décentrer un tout petit peu. Je voulais, c'est vous qui m'avez fait penser à ça. C'est juste un peu, je vais un peu poil à gratter, un peu, je vais le dire un peu n'importe comment, mais bon. À un moment, vous avez dit quelque chose, ça m'a fait tilt. Si je suis ce que vous avez dit, avec lequel je suis globalement d'accord, au sens de je comprends l'esprit de la loi, même si après son application me paraît poser problème. Si on est vraiment dans la protection contre l'espionnage, etc., d'une certaine façon, c'est vous qui m'avez fait penser à ça, mais pourquoi les journalistes sont-ils dans cette loi ? Parce que, je veux dire, on peut toujours dire, bah, il vaut mieux, je comprends bien, bah, écoutez, on a préféré la mettre pour justement éviter l'accusation d'eux, mais si je vous dis, la loi, principe, le début de la loi sur la lutte contre la pédophilie, la nouvelle loi sur la pédophilie qui luttera contre la pédophilie, y compris et surtout chez les avocats et les magistrats. Absolument. Vous allez vous dire, mais pourquoi il nous mêle à ça ? Enfin, je veux dire, en quoi on est plus concerné que les autres ? Vous voyez ce que je veux dire ? D'une certaine façon, je comprends intellectuellement qu'on se dise, pour éviter l'accusation maximale, j'allais dire, le secret des affaires pourrait gêner les journalistes, nous avons prévu l'exception. Mais si la loi, elle est vraiment faite pour lutter contre l'espionnage, alors dans ce cas-là, les journalistes ne devraient même pas y être mentionnés. Vous voyez, c'est ça qui me...
C'est justement pour ça que je disais, dans les débats qu'on a eus en amont, on avait dit, limitons les choses au secteur concurrentiel. Et du coup, effectivement, les journalistes, les lanceurs d'alerte, etc., étaient exclus du problème. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Chamoyau, je crois que vous vouliez également intervenir.
Oui, c'est sûr, par rapport notamment au développement de Maître Aigri, j'entends que votre clientèle n'est composée que d'entreprises de bonne foi. J'entends aussi que dans l'entreprise de Madame Lavorel, ça se passe bien aussi. Alors moi, je dirais mon expérience de citoyen et encore plus mon expérience de professionnel me laisse penser qu'il y a aussi des entreprises de mauvaise foi, des fois, qui peuvent aussi, des fois, se saisir de toutes les ressources que donne une loi pour en faire un usage de mauvaise foi. Alors ça, je vais pas me parler à la place de Maître Comte, mais j'ai l'impression que, par exemple, devant la 17e chambre, il arrive aussi occasionnellement que des plaintes soient déposées, juste pour dire qu'on a déposé une plainte, pour gagner du temps, alors même qu'on sait que ça n'a aucune... Alors que ça n'a aucune chance de réussir. Moi, en tant que quand j'étais juge d'instruction, des plaintes déposées pour vol par des salariés, pour fausse attestation, pour des choses comme ça, qu'on sait être totalement infondé, mais juste parce qu'on espère un bénéfice secondaire de l'existence de la procédure dans laquelle on sait qu'à la fin, on aura tort. Mais ce qu'on veut, c'est gagner du temps, c'est emmerder l'autre, lui faire dépenser de l'argent, etc. Je suis désolé, peut-être pas chez vos clients, maître, mais en vrai, ça existe quand même un peu. Ça existe quand même un peu. Et le problème, c'est que cette loi-là, par l'insuffisance des garanties qu'elle prévoit, elle offre un boulevard à celui qui veut s'en servir pour museler la presse ou le lanceur d'alerte qui voudrait attirer l'attention du public sur un certain nombre de turpitudes. Et le problème, c'est pas la loi secret des affaires en ce qu'elle protège de l'intelligence économique ou de l'espionnage industriel. Le problème, c'est la dérive qu'elle permet par les trous qui existent dans la raquette, qu'elle permet contre des gens qui, lanceurs d'alerte ou journalistes, voudraient porter légitimement à la connaissance du public des informations que les entreprises préféreraient être tues. Et c'est pas le simple fait d'avoir dans le texte une limitation qui dit, en effet, là, le texte, il est extrêmement précis sur le fait que non, un lanceur d'alerte ne doit pas être condamné, que non, quand on révèle une information légitime, on ne doit pas être condamné. Le problème, c'est que ça offre des garanties très insuffisantes contre des procédures, comme je le disais, manifestement infondées, exercées de mauvaise foi dans le but de paralyser, des acteurs légitimes.
Je voudrais juste rajouter un mot et je vous donne la parole après tout de suite. Vraiment un mot. L'exemple de la CADA est aussi un exemple. C'est pour ça que vous êtes tous mobilisés, etc. Parce que ça induit, vous voyez, de l'autocensure de la part d'une instance qui est censée réguler la question de l'accès au débat public et qui préfère dire « Oh, ben attendez, c'est peut-être secret des sûrs ». Donc c'est bien la preuve que ça pose des problèmes qu'on n'avait pas anticipés, puisque certains préfèrent, du coup, par prudence, ne pas...
Deux petites interventions et après on a un débat avec la salle, donc je donne la parole à Laure Lavorel.
Je veux juste répondre, je ne représente pas mon entreprise ici, je représente le CERF Montesquieu, donc en fait je représente 400 entreprises françaises. Écoutez, c'est le travail. Je crois que c'est important de rappeler que c'est le travail du directeur juridique. Nous sommes quand même les relais, et je pense que ça, c'est un travail qu'on mène avec beaucoup de magistrats. Nous sommes les relais de la légalité dans l'entreprise. Et si les entreprises françaises sont de bonne foi et respectent la loi, c'est parce que les directeurs juridiques font un travail de fond, notamment avec l'AFA. Donc je voulais quand même le préciser parce que c'est important. Je voulais juste simplement, avec mon expérience très internationale, dire que ces questions sont légitimes, elles sont intéressantes. Mais ce qui, parfois, en France, me désole, c'est qu'on se bloque rapidement parce qu'une situation n'est pas parfaite, que le monde idéal n'existe pas, et que si cette loi adresse des sujets qui sont importants, qui sont notamment la souveraineté, donc il faut les prendre en compte, et c'est positif. Après qu'il y ait des dérives éventuelles et des effets de bord qui peuvent être sérieux, traitons-les, mais on ne peut pas paralyser un système en entier dans un pays parce que finalement le monde aujourd'hui fonctionne de manière non idéale. Et donc ces débats sont importants pour essayer de comprendre comment on peut améliorer les choses s'il le faut le faire, mais je pense qu'il est important quand même qu'on soit aujourd'hui tous au diapason sur l'intérêt et l'opportunité que cette loi offre, encore une fois, à la compétitivité de notre pays, qui en a bien besoin.
Merci. Dominique, en quelques mots.
Oui, j'aime bien entendre, on peut améliorer ce qu'on fait. On est en train de détruire la loi de 81, mais on peut quand même améliorer peut-être. Excusez-moi, chère voisine, mais vous me laissez très dubitative. Pourquoi il va y avoir multiplication des plaintes? C'est une évidence, puisque le côté complètement flou des trois critères qui ont été rappelés par Jérôme Carcinti donne un monde d'interprétation à tous les services juridiques des entreprises, à tous les avocats qui, de bonne ou de mauvaise foi, veulent conseiller d'aller en justice parce que c'est leur vie, ils en vivent, pardonnez-moi, c'est normal aussi, mais tout le monde est humain, et deuxièmement, quand je dis que c'est une loi de concurrence, elle est complètement à côté de ce qu'elle veut dire, puisqu'on est dans un monde où les hackers rentrent au Pentagone comme ils veulent, hein, dans les services secrets, comme ils veulent, à quel moment, et encore s'ils laissent des traces de leur passage, ce qui, pour un hacker, serait vraiment une faute professionnelle. Hein. Je veux dire, dans ce monde-là, on fait une loi qui va emmerder tout le monde, sauf eux. Hein. Dans un monde où les rachats des entreprises incluent les brevets qu'elles possèdent, les Chinois pour la construction des TGV, des avions, etc. Je ne vous fais pas un détail dans tous les secteurs. Dans un monde où les dirigeants changent d'entreprise et de continent en un clin d'œil, vous pensez que cette loi répond vraiment au problème? Je ne le crois pas.
Merci beaucoup. Parole à la salle. Je crois qu'il y a déjà Mireille Damiano qui veut intervenir. Je te donne la parole.
Oui. Oui, première observation sur ce que vous dites.
Pencher, je crois.
Si, c'est bon. Je parle plus près. Une première observation par rapport à ce que vous indiquez de la loi. Moi, ce qui me gêne dans l'appréciation que vous avez faite, Madame Majorelle, c'est que, en réalité, vous nous dites cette loi est une bonne loi et finalement, vous l'avez dit, il y a des dommages collatéraux. Moi, je crois que cette approche de la loi n'est pas une bonne approche parce qu'en réalité, c'est la manière dont cette loi est faite qui génère en fait les dysfonctionnements ou la manière dont elle va être utilisée. Ensuite, mon propos est un propos de travailliste en réalité, puisqu'on a bien compris qu'il s'agissait de passer, comme l'a dit madame, du secret industriel au commercial à quelque chose qui était plus général et qui couvrait une sphère de protection plus importante. Et confrère, vous avez indiqué également que finalement, ce qui était protégé par les brevets n'était pas suffisant, d'autant que ça avait quand même pour conséquence une certaine publicité et une certaine révélation. Ce qui signifie, à contrario, qu'il faut en réalité couvrir par le secret des choses qui ne sont pas si claires et si faciles à dévoiler. Merci. Bon. Et je prends un exemple du droit du travail, puisque la question qui se pose, et vous avez dit que l'entreprise était une grande communauté avec des salariés dont l'intérêt était de protéger les emplois, mais plaçons-nous dans le cadre des fusions, absorptions, délocalisations, par exemple. Ce que l'on va opposer aux salariés représentants du personnel et qui veulent justement essayer d'éviter le plan et essayer d'éviter les licenciements, c'est de savoir quelles ont été les stratégies qui ont été mises en place par l'entreprise précisément pour aller en Pologne, en Serbie ou je ne sais où, pour délocaliser ou avoir des opérations financières problématiques. Et on leur oppose là, non plus comme on le dit avant, secret industriel et commercial, qui était quand même quelque chose d'envisageable tout à fait et légitime, mais on leur oppose le secret des affaires parce que vous n'avez pas à connaître les mouvements de capitaux, vous n'avez pas à connaître la manière dont on envisage le suivi, l'expansion de l'entreprise, et c'est dans ces conditions-là que, effectivement, non seulement ça va générer des contentieux, mais ça bloque l'information qui est naturelle et légitime des représentants pour avoir la défense précisément des intérêts dont ils ont la charge.
Est-ce qu'il y a une réponse autour de la table? Non. Monsieur, je vous en prie, présentez-vous s'il vous plaît, comme ça on sait.
Bonjour, je suis Antoine Champagne, je suis cofondateur et rédacteur en chef d'un journal en ligne qui s'appelle reflet.info. Je vais vous donner en fait mon sentiment de praticien du journalisme, puisque vous avez beaucoup donné votre sentiment en tant que praticien du droit. Je vous dis, grosso modo, on est une toute petite structure. Probablement, mon budget annuel pour des avocats doit tourner autour de 2000 euros. Je voudrais vous demander à vous quel est le budget du service juridique de votre entreprise.
Alors moi, je représente le cercle Montesquieu, pas mon entreprise.
J'ai bien compris, voilà. Mais grosso modo, votre entreprise...
Je vais vous opposer le secret des affaires.
Voilà, je vois bien le problème.
Je plaisante.
Je vois bien le problème. Vous avez un problème avec la transparence?
Non, j'ai aucun problème avec la transparence, mais je ne suis pas mandatée par mon entreprise pour vous parler aujourd'hui. Je représente le cercle Montesquieu.
Alors, dans le cercle Montesquieu, vous avez des entreprises, vous avez dit, grosso modo, 400 entreprises. Quel est le montant moyen du service annuel que peut déployer une entreprise moyenne du cercle Montesquieu?
Alors, c'est très très large parce qu'on présente des entreprises qui sont des PME, donc certaines ont votre budget, cher monsieur, pas plus.
Et d'autres,
si vous pensez aux entreprises du CAC 40, je pense que si les comptes sont publics, je ne les ai pas en tête, mais c'est très conséquent.
Ouais. Bon, c'est très conséquent.
Voilà. Mais ne focusons pas tout le temps sur le CAC 40, on l'a beaucoup dit que la PME était quand même au centre des débats.
Ce que je veux dire par là, c'est que les procédures bâillons, c'est effectivement un vrai problème pour la presse. Et pas que, et je vais vous retourner l'histoire, c'est pas que pour les petites structures comme celle pour laquelle je travaille, mais aussi pour des grands journaux. Je suis aussi accessoirement pigiste. Il y a des enquêtes que je mène, ou que mes petits camarades mènent, qui ne sont jamais publiées. Pourquoi? Parce que les entreprises de presse, même grosses, même des gros journaux nationaux, ont peur des procédures bâillons qui vont suivre. Donc il y a des informations qui ne viennent jamais au public. Ça, c'est un premier point. Après, vous avez parlé d'une loi qui était nécessaire pour protéger des choses un peu immatérielles de l'entreprise, etc., qui n'étaient pas couvertes avant. Moi, ce qui me paraît dingue quand j'entends ce genre de choses, c'est que depuis maintenant, je ne sais pas, depuis le début de mes années de travail, je suis confronté à des entreprises, soit très grosses, soit plus petites, qui sous-traitent leurs plans commerciaux, leurs plans de restructuration, enfin tout leur projet de gestion d'entreprise, à des cabinets étrangers, généralement américains, y compris pour faire la comptabilité, c'est-à-dire qu'en fait, toute la stratégie des entreprises françaises se retrouve sur des serveurs informatiques qui sont situés aux États-Unis depuis déjà 40-50 ans, on est d'accord ? Et le détail en profondeur des finances des entreprises est également situé sur des serveurs qui sont aux États-Unis. On a vu, je ne vais pas revenir dans le détail, mais c'est un sujet qu'on a quand même beaucoup traité dans mon journal, la surveillance mise en place par les services de renseignement américains est très importante. Donc effectivement, ce qui se trouve, on peut considérer que ce qui se trouve sur les serveurs informatiques de ces cabinets de consultants américains est accessible pour les services de renseignement. Voilà. Donc je comprends pas très bien quelle est cette en fait dichotomie entre on veut se protéger et en même temps on se livre entièrement, on livre toute notre stratégie à des cabinets américains.
Non, je pense que c'est un point intéressant. Il n'y a pas de dichotomie du tout. D'ailleurs, le gouvernement, et ça vous a, j'imagine, pas échappé dans l'exercice de votre profession, le gouvernement et l'Assemblée nationale spécialement travaillent sur cette question de souveraineté numérique. Parce que là, en fait, on parle de la souveraineté numérique, ce qui est à la fois pas le sujet et un peu le sujet. Parce que là, on parle de l'accès des données sur des serveurs à l'étranger. Donc, c'est la question de la souveraineté numérique.
Non, mais...
Je n'ai pas compris votre question.
Si, non, c'est un choix des entreprises de se livrer, en fait.
Non, pas de se livrer, attention.
De livrer leur stratégie.
Non, oui,
mais
enfin.
Si, quand vous demandez à un cabinet de faire toute la restructuration d'un groupe français, vous livrez, en fait, l'essentiel de votre capital, en fait, à un cabinet étranger. Donc, vous le faites volontairement.
Enfin,
c'est pas parce qu'il n'y a pas un cabinet français qui peut le faire.
Oui, enfin, ce sont des entreprises qui, si je ne m'abuse, sont soumises au secret professionnel. Donc,
oui, bien sûr, mais bien entendu, les informations sont stockées sur les serveurs de ces entreprises.
Donc on parle de souveraineté numérique, ou pas ?
Oui, mais enfin, je veux dire, je ne vais pas rentrer dans un débat sur la souveraineté numérique avec vous. La souveraineté numérique en France est un concept qui est totalement incompris. Ici même, par exemple, on est en train de parler de la protection des lanceurs d'alerte, etc. Je me connecte au Wi-Fi qu'on met à ma disposition, et au moment où je veux utiliser un VPN pour protéger mes sources et les échanges de mails que je vais avoir ou ce genre de choses, le réseau Wi-Fi m'interdit de le faire.
Ça, il faut se plaindre au CNB. Hein.
Non, mais enfin, je veux dire, le concept de souveraineté numérique est totalement incompris parce que les problèmes numériques sont pas très bien compris en France.
Je vous donne vraiment raison sur ce point-là.
La plupart des gens qui en parlent
absolument
ne sont pas des techniciens.
Maître Aéry, vous vouliez dire un mot ?
Deux mots.
Deux, premier, c'est beaucoup.
Les mots ont évidemment, je pars sous le... Pour répondre à monsieur et pour... les mots ont un sens. Quand vous parlez de procédure Bayon, monsieur, il y a évidemment une qualification. La procédure Bayon, moi je vais l'appeler différemment, c'est un droit d'ester en justice qui est ouvert à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Et les magistrats, notre corps judiciaire et notre loi disposent de tous les moyens depuis plus de 200 ans pour sanctionner les abus. Et même la loi sur le secret des affaires a encapsulé des éléments permettant de sanctionner, avec des montants importants, les abus. Ça, c'est le premier point. Donc, quand vous parlez de procédure Bayon, je trouve qu'il y a une forme de qualification qui est que toute forme d'instance judiciaire qui serait mise en œuvre par quelqu'un qui estimerait que ses droits ont été lésés serait, selon vous, disqualifiée compte tenu du fait qu'elle s'adresse à une catégorie particulière. Et ça, c'est quelque chose que, conceptuellement, j'ai du mal à apprécier. La deuxième chose... J'entends ce que vous dites sur la souveraineté numérique. J'entends ce que vous dites sur la question du secret et de la protection. Si effectivement cette préoccupation est importante, eh bien, dans un mouvement collectif, acceptons les préconisations du rapport Gauvin, permettons aux juristes français d'entreprise que leurs recommandations soient couvertes par le secret professionnel. Laissez-moi juste vous dire que c'est le cas, vous faisiez référence aux États-Unis, puisqu'il existe un legal privilege aux États-Unis dont bénéficient les juristes d'entreprise dans leurs conseils et dans les recommandations qu'ils font, il est beaucoup plus respecté par le régulateur américain que notre secret professionnel d'avocat est respecté par le régulateur français. Donc si vous souhaitez effectivement qu'on se réapproprie une partie de notre patrimoine intellectuel sur les questions de droit notamment, acceptons que les juristes français d'entreprise bénéficient d'une protection. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire ce qui se passe dans la vie économique, afin de se protéger davantage, les entreprises font appel à des juristes étrangers parce que dans leur juridiction,
la protection accordée à leurs travaux est supérieure à la protection accordée à nos juristes en France par nos régulateurs. Donc il y a presque une sorte de fragmentation de la valeur intellectuelle qui réside dans la pratique et dans la fabrique du droit en France, tout simplement parce qu'elle n'est pas protégée. Donc j'entends ce que vous dites, mais la conséquence du vœu pieux que vous venez d'exprimer, c'est qu'il faudrait qu'on soit aussi bien protégé que dans d'autres pays. C'est tout.
Bien sûr, je vous en prie.
C'est juste que je voudrais indiquer clairement, jurisprudence de la Cour de cassation à l'appui, que le concept de procédure Bayon est particulièrement approprié. Pour la très simple raison que la Cour de cassation a toujours refusé qu'une procédure qui se termine en première instance et en deuxième instance par une relaxe soit sanctionnée par l'allocation éventuelle de dommages et intérêts à la personne poursuivie pendant 5 ans de suite ou 4 ans de suite ou 3 ans de suite. Et la jurisprudence est constante. Elle a changé au mois de juillet 2018, si ma mémoire est bonne, avec la possibilité pour la Cour de cassation de dire quand c'est une procédure de presse, on peut en effet peut-être obtenir de la juridiction quand on gagne tout le long du chemin la procédure, mais elle a créé des conditions telles que c'est totalement impossible, je le dis en toute honnêteté, hein, on pratique ça énormément. Par contre, je peux vous donner une bonne nouvelle, c'est que Bolloré se désiste de son appel la semaine prochaine contre un de mes clients, donc ce qui prouve que peut-être il va maintenant procéder avec une autre loi.
Je veux également juste dire un mot, Camille. Procédure Bayon et comment la loi secret des affaires pose en elle-même les possibilités de ces actions Bayon. Parce que autant les dommages et intérêts prévus par la loi sont quasi illimités, hein, je ne vais pas vous faire la lecture in extenso de cet article, mais on a toute une série de préjudices qui sont possiblement indemnisables par la loi. En revanche, et c'est quand même très drôle, en cas de procédure abusive, étrangement, les dommages d'intérêt sont plafonnés. Donc on a vraiment une loi qui pose en elle-même l'inégalité de traitement. Est-ce que dans la salle, on a encore...
C'est en cas d'invocation abusive du caractère
non.
secret.
Non, non. Des sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive. Section 4, article L152-8.
Pour avoir invoqué le secret, cette loi ne vient pas nous priver de la possibilité devant n'importe quelle juridiction, si une action en responsabilité quelconque est présentée, d'obtenir des milliers d'euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Non, si l'entreprise attaque pour sur le fondement du secret des affaires, et qu'on considère que oui, mais de l'autre côté, la partie qui poursuit, qui s'estime lésée, en revanche, elle a vocation à demander des dommages intérêts qui sont pour le coup illimités. Donc, on a véritablement une inégalité dans les sanctions qui sont possibles. Et là, on est sur le terrain civil. On n'est pas sur le terrain pénal.
Et c'est limité à 60 000 euros.
Mais 60 000 euros, qu'est-ce que c'est ?
Un coût largement acceptable dans un certain nombre de situations pour acheter le silence pendant quelques années.
On est parfaitement d'accord. Alors, est-ce que dans la salle, on a encore quelques questions ?
Les entreprises, oui, c'est Satan.
Non, mais non. Non, ne caricaturez pas. Parce que, pour le coup, c'est vrai que ça discrédite ce qu'on dit et je crois pas que... Voilà, il y a un fondement un peu intéressant quand même.
1000 euros d'amende civile, c'est 6 fois plus que le maximum que de la loi autorise dans n'importe quelle autre situation.
Est-ce que c'est vraiment dissuasif contre une grosse entreprise, 60 000 euros ? Non mais sérieusement, est-ce que c'est véritablement dissuasif ?
Oui. Alors, on va donner la parole à... Pardon, vous êtes monsieur, pardon.
Monsieur Sangaré Al-Hassan, je suis avocat au barreau du Mali, bâtonnier en exercice de mon ordre, vice-président de la conférence des barreaux de l'espace OADA. Donc, je me suis retrouvé là aujourd'hui. Je vais m'adresser au CNB. Mais d'abord, mes remerciements à tous les intervenants. Le panel, les interventions étaient de belle facture. Je le dis très honnêtement, je suis excusez-moi le terme, je suis bluffé. C'est parce que j'ai appris suffisamment de choses déjà. Mais je m'adresse particulièrement au CNB pour le compte non seulement du barreau du Mali, mais de la conférence des barreaux de l'espace OADA. Donc, je sais qu'il s'agit aujourd'hui du secret des sources, du secret des affaires. Le secret des sources est réglementé chez nous exactement comme ici, mais aujourd'hui, nous sommes dans un espace communautaire chez nous. Mais le secret des affaires n'est pas véritablement réglementé tel que ça l'est ici. À l'intention du barreau du CNB, moi je pense vraiment que nous devons certainement, dans le cadre de la collaboration, organiser des sessions de formation de ce genre pour nous permettre également de réglementer ces notions qui sont des notions essentielles aujourd'hui. Le monde étant devenu un village planétaire et nos entreprises font des affaires en Europe, mais plus les entreprises européennes font des affaires en Afrique. Donc nous estimons vraiment qu'il est de bon ton et de bon droit qu'on puisse collaborer dans ce sens-là pour permettre l'évolution de ces notions-là. Parce que chez nous, c'est la politique qui règle tout. Malheureusement, nous, juristes, souvent, on est à la traîne. Or, nous devons être les moteurs. De la même manière que nous sommes les moteurs des affaires, nous devons être les moteurs de la législation et de la réglementation. Cela ne peut se passer que dans le cadre de la formation et de la coopération entre nos différents barreaux et nos différents espaces. Voici ce que je voulais dire. Je n'avais pas de questions précises à poser, mais voilà.
Merci beaucoup, Monsieur le Bâtonnier. J'ai entendu au nom du CNB de votre requête. Je ne suis qu'un tout petit membre du CNB, donc je transmettrai à notre présidente. Je pense que le débat avec la salle est maintenant clos. Je redonne la parole à Jean-Jacques Gandini, je crois, pour passer le témoin à notre invité qui va nous faire un essai de synthèse de nos débats.
D'abord, effectivement, merci à tous les intervenants, quels qu'ils soient, pour tout ce qu'ils ont dit et fait. Et je crois que l'échange avec la salle a été très fructueux. Et c'est pour ça que l'intérêt également, c'est que les débats aient été enregistrés pour qu'on puisse par la suite vous les restituer au mieux qu'on pourra. Donc là, maintenant, est arrivé le temps de la conclusion, synthèse. Et j'ai donc laissé la parole donc, à Gilles Senati, qui va essayer de synthétiser un peu tout ce qui s'est dit et en même temps d'ouvrir peut-être des pistes par rapport à tout ce qu'on a échangé entre nous. Et d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous, sans date précise pour l'instant, mais à la seconde édition de l'Université d'été, SAF SNJ SM.
Merci beaucoup. Donc je vais d'abord me présenter parce que tout le monde s'est présenté et finalement chacun doit le faire. Donc je suis magistrat et ancien secrétaire général, mais il y a très un certain temps déjà, du syndicat de la magistrature. Et je m'occupe en fait de... actuellement, je suis juge des référés. Donc ce n'est pas inintéressant dans le contexte dans lequel on parle. Et aussi président d'une section qui s'occupe des procédures collectives civiles depuis très longtemps. Le débat, effectivement, il est difficile de le synthétiser, il a été multiforme. Je dirais que c'est un débat sur à la fois une analyse rétrospective et historique du secret des affaires et une analyse introspective sur qu'est-ce qu'on le juriste peut faire ou peut penser de la loi. Le débat, donc, a été actif. Et on a l'impression, parfois, quand on veut caricaturer, qu'il y aurait deux camps. Il y aurait deux camps, ceux qui sont partisans de la transparence à outrance et ceux qui sont partisans du secret des affaires à outrance. Je pense qu'il faut sortir de là, parce que de toute manière, on n'avance pas dans une adversité comme ça, une dichotomie comme ça. Et nous sommes tous, il me semble, attachés à l'état de droit. C'est ce qui nous permet effectivement d'exister. Nous sommes tous aussi attachés au développement de l'économie et aux actifs des entreprises nationales. Enfin, il n'y a pas de, dans mon esprit en tout cas, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. L'état de droit, ce n'est pas une notion fantaisiste. Elle permet des revendications fortes en termes de liberté et auxquelles, effectivement, figure la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, mais aussi la préservation du libre arbitre de l'individu. dont on souhaite très souvent qu'il soit un citoyen avisé et éclairé au moment du vote. Et effectivement, il faut pas essayer de, il faut essayer de couper court au discours simpliste qu'il y aurait finalement une série de l'État finalement serait là à la remorque des entreprises et il n'y aurait pas d'arbitre et finalement ça ouvre la voie au populisme. Alors, il y a eu effectivement tout un tas d'interventions sur de manière rétrospective. On a essayé de voir l'historique de la loi. On a essayé aussi d'avoir une vision un peu plus complète de la loi. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a peut-être pas pris de recul sur la notion de secret lui-même. Parce que le secret, c'est quelque chose de fondamental, finalement. Le secret, c'est ce qui fonde la notion de vie privée. Au 19e siècle, au début du 20e siècle, c'était la notion de vie privée. Et on a souvent développé la notion de secret pour l'État, pour le prince, mais aussi on a développé aussi la notion de secret de la vie privée contre l'arbitraire de l'État et contre l'arbitraire du prince. Donc effectivement, c'est des notions qui sont très ambivalentes. Ce qu'on insiste actuellement, c'est le déclin de la notion de l'intimité de la vie privée via l'exposition des vécus individuels sur Internet facilite la distorsion de la notion de secret. On ne sait plus ce qu'est le secret et ce qu'est la transparence, finalement. Chacun s'expose sur Internet et il n'y a plus de secret de la vie privée. Mais par contre, effectivement, on va effectivement développer, du coup, un secret qui serait différent et qui pourrait être en dehors de cette exposition individuelle. Alors, on a assisté aussi ces 20 dernières années, ça on n'en a pas trop parlé, mais en fait, cette notion de secret a été particulièrement mise à mal par la surveillance de masse qui s'est développée via la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est vrai qu'il y a eu comme des instruments. On a parlé d'extraterritorialité, on a parlé de problèmes de souveraineté numérique. C'est vrai que quand on voit le débat qu'on a eu aujourd'hui et quand on voit le pouvoir de la NSA, on se dit qu'il y a peut-être un problème d'équilibre et que la pauvre loi sur la loi secret des affaires est de faible recours contre l'utilisation d'une surveillance de masse généralisée à des fins de concurrence économique. On a vu quelques affaires récemment qui ont fait l'actualité et qui ont vu que les affaires pénales pouvaient être instrumentalisées par le département de justice aux USA pour, effectivement, dans le cadre d'affaires beaucoup plus complexes de rachat d'entreprises européennes ou voire même de sanctions, d'amendes très importantes contre des entreprises européennes. Donc, évidemment, on voit que les choses sont beaucoup plus compliquées et que notre cadre dans lequel on va s'exprimer aujourd'hui, il est un peu restreint. Et on aimerait bien avoir une vision plus complète, mais les choses sont beaucoup plus complexes. Je parlais aussi, et on a parlé des personnes qui font du hacking, mais il y a aussi un scandale dont on a parlé, c'est le scandale de Cambridge Analytica aussi, qui effectivement a démontré qu'on pouvait aussi avoir des officines privées qui travaillaient pour les intérêts économiques ou politiques étrangers et qui pouvaient avoir des conséquences sur les votes des citoyens, par exemple en Angleterre ou ailleurs. Donc, effectivement, la notion de secret professionnel et de transparence est quelque chose qui devient fluctuante en fonction du moment politique. Et c'est vrai qu'on a dit que c'était une loi politique. Je citerai simplement Machiavel qui disait qu'il n'y avait pas de distinction entre les bonnes et les mauvaises lois. Pour Machiavel, les lois étaient bonnes lorsqu'il y avait l'emprise de la force. C'est un peu rapide, mais en réalité, c'est ça. Il disait des lois quasiment iniques ou absurdes ont de l'efficacité si la force les appuie. Et c'est vrai que le problème, c'est parfois le rapport de force qu'il peut y avoir, non pas dans le contexte de l'édiction d'une loi, mais aussi dans le contexte de la faire vivre cette loi. Alors, c'est vrai que le secret professionnel, prévu par la loi du 30 juillet 2018, a instauré une nouvelle notion, celle de protection du secret des affaires. Elle le place dans le code de commerce. Alors, c'est vrai que la discussion qui a été mise en place est assez compliquée parce que chacun parle de procédure Bayon. Et en fait, on mélange le pénal et le civil. Et parfois, un béotien, celui qui ne pourrait pas comprendre comment ça fonctionne, se dirait bah, finalement, il ne comprendrait pas ce qui est du ressort du pénal et ce qui est du civil. Là, la loi sur le secret des affaires, c'est uniquement une loi civile et commerciale. Il faut bien cantonner les choses. Mais effectivement, elle rentre dans un contexte général où il y a la possibilité pour tout un chacun d'utiliser la voie pénale en plus de la voie civile. Donc cet échafaudage processuel a été construit, quand on regarde la loi, c'est en fait, on voit que ce sera devant le tribunal de commerce, par voie de référé ou par voie de requête. Le référé, je connais bien, je pratique tous les jours, donc je sais de quoi je parle, et ça sera aussi par voie civile ou par voie commerciale. Donc on peut très bien avoir un juge professionnel saisi sur la base de ce texte. Ou en tout cas, on peut invoquer ce texte dans le cadre de procédures civiles. Alors évidemment, se posera des problèmes, se posent de multiples problèmes. Comment distinguer a priori la protection d'intérêts légitimes reconnus par la loi avec par l'intérêt général et le secret des affaires? Ce sera le juge arbitré. Et c'est vrai qu'on rentre dans une situation d'incertitude juridique. C'est vrai que là, sur ces points-là, eh bien, on n'a pas de jurisprudence et on va avoir un certain nombre de temps pour avoir quelque chose de construit. Comment éviter l'utilisation du secret des affaires pour s'affranchir, pour que certaines sociétés s'affranchissent d'obligations légales au regard des salariés? Par exemple, on peut très bien envisager une conception extensive du secret par l'employeur ou bien une conception extensive de sociétés qui ne voudraient pas, par exemple, qui voudraient s'affranchir d'informations légales, de rapports financiers annuels, etc. Ça, c'est vrai que c'est possible aussi. La loi pose une notion qui pourra être utilisée par les uns et les autres de manière différente. Comment protéger la liberté de la presse dans ce contexte? Comment éviter les procédures dilatoires et longues et fastidieuses? Ça, personne ne pourra aujourd'hui donner une réponse. Ça va être effectivement l'objet d'un rapport de force à la fois politique mais aussi judiciaire. Plus proche du procès, et là j'en parle de manière personnelle, comment vais-je pouvoir articuler la procédure de l'article 145 du Code de procédure civile avec la loi sur le secret des affaires? Il va falloir donc envisager une restriction d'accès à l'information, une procédure qui est prévue par la loi, hein, mais qui, effectivement, n'a peut-être pas été envisagée par le législateur de manière un peu construite. Ça me semble évident. D'ailleurs, entre nous, anecdote, j'ai deux dossiers dans lesquels actuellement on me soulève le secret des affaires dans le cadre de l'article 145. Donc il va falloir que je développe quelque chose. En plus, il y a un problème d'application immédiate de la loi ou pas. Donc là, il y a des difficultés qui, effectivement, certes, sont juridiques, mais en réalité, on s'aperçoit bien que cette loi télescope d'autres systèmes juridiques qui existaient précédemment. Tout ça pose un problème. Alors, la loi prévoit une prescription de 5 ans en matière de procédure, mais en fait, la notion de secret des affaires elle-même, ben, il n'y a pas de loi parce que c'est imprescriptible. Alors, ça m'amuse quand on parle d'imprescriptibilité parce que je pense au crime contre l'humanité quand même. Donc, le secret des affaires serait aussi imprescriptible que le crime contre l'humanité. Ça c'est intéressant de manière à réfléchir. Mais en fait, le problème, effectivement, c'est pas ça. C'est aussi la loi. Et c'est là qu'on voit peut-être qu'on n'a pas envisagé toutes les conséquences extérieures de la loi. C'est qu'elle touche aussi, par exemple, tout simplement, la notion d'enquête historique. Par exemple, effectivement. Demain ou peut-être dans 20 ans, si la loi existait toujours, en ce contexte-là, peut-être qu'il faudra l'améliorer, justement. On pourra très bien envisager qu'une enquête historique sur des choix économiques, etc., 20 ans avant, ne sera pas possible parce qu'elle sera couverte par le secret des affaires, tout simplement, parce que c'est secret. Et donc là, effectivement, on est un peu dans le côté protestatif des choses. Après, je voudrais dire simplement que le débat s'est orienté sur la notion de souveraineté numérique. C'est vrai que on a l'impression que ce texte de loi, il est gentil, mais qu'il ne va pas protéger les entreprises européennes contre les investigations, qu'elles soient de personnes physiques ou bien d'institutions étrangères, en matière de piratage informatique. C'est évident qu'il va falloir envisager un autre volet de la loi, ou en tout cas raccrocher ce texte. Le retravailler peut-être effectivement au regard de la liberté de la presse, mais le raccrocher à autre chose de plus sérieux pour combattre effectivement ces investigations concurrentielles en matière informatique. Et je dirais simplement que on a beaucoup de retard en France. On a pris le train largement en retard. Quand on voit effectivement les procédures notamment anticorruption des Américains, quand elles le développent, et la procédure Discovery aussi aux USA, la pauvre loi protection du droit des affaires ne va pas y résister souvent. Donc je crois que aujourd'hui, plutôt qu'un affrontement, on devrait essayer de réfléchir à comment rendre compatible l'exigence de transparence qui infuse les sociétés civiles européennes, au moment où, effectivement, des choix industriels et économiques sont fondamentaux pour l'avenir de la planète. Enfin, je veux dire, on développe dans d'autres endroits la notion de crime d'écocide. Comment pourra-t-on développer, effectivement, ce type de choses si on n'a pas accès aux informations? Donc, je crois que là, effectivement, on est un peu au milieu du guet. Je pense que protéger les entreprises et leurs actifs n'y a aucune difficulté, mais effectivement, protéger aussi l'avenir de nos sociétés démocratiques et de notre ensemble culturel européen, par exemple, est aussi important. Merci.
Je remercie Gilles pour sa qualité de sa synthèse. Mais avant de nous séparer, il y a Dominique Pradalier qui a une petite annonce à vous faire.
Oui, pardonnez-moi, c'est très rapide. Donc la loi nous pose des problèmes graves de fonctionnement d'enquête, etc. Mais nous sommes aussi confrontés à d'autres types de problèmes, c'est qu'on nous empêche d'être témoins maintenant. Et dans les manifestations, aussi bien Gilets jaunes qu'avant ou dans d'autres manifestations, nous avons 200 cas. De journalistes empêchés de travailler par les forces dites de sécurité. Des plaintes sont déposées, etc. À tel point, des journalistes injuriés, matraqués, blessés gravement, etc. Et pas dans des charges, hein, au repos et identifiables. À tel point que nous avons dû faire un petit guide de défense du journaliste avec l'association de la presse judiciaire. C'est vous dire à quel point on est embêtés. Merci.
Merci donc et à l'année prochaine.